Vous écoutez
RMC. RMC.
18h-20h.
Rotten Régal. François Pinet.
Jérôme Rotten.
17h59, bonsoir à tous. Bienvenue sur RMC, comme tous les vendredis. Comme tous les vendredis, c'est l'heure de Rotten Régal pendant 2 heures. Et un Rotten Régal avec François Pinet aujourd'hui. Salut François.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va?
Alors, en pleine forme, je suis ravi de faire ce Rotten Régal exceptionnel.
Oui. Oui, oui.
Ah non, là,
c'est que t'es ravi à chaque fois. C'est vrai
que je suis ravi de faire ce Rotten Régal en général, mais là encore plus.
Bah, je t'ai croisé toute la semaine.
Bah oui, parce que j'ai bossé un peu cette semaine.
Ouais, ah ouais.
Ouais, ouais.
Bien bossé.
Ouais, ouais.
Il y en a un qui a bien bossé aussi souvent avec toi.
Ah ouais. Bah, il a fait
c'est Jean-Michel Larquier. Salut Jean-Mi.
Il a fait le grand chelem.
Il est un peu plou.
Ah bah là, c'est, là on est mal.
Non, mais je t'assure qu'il était meilleur. Du lundi
tout va bien.
Au mardi jusqu'au mercredi.
Enfin, il est monté en puissance.
Il est en progrès.
Ouais, mais le vent.
Pour finir en bon.
Mais j'adore, monter en puissance. Oui, ça, j'adore. Ça,
c'est vrai, t'aimes bien cette.
cette expression.
Il monte en puissance.
Ah oui, la verticalité, la montée en puissance, la faute intelligente. Le... Ah, il y en a un paquet.
Ah,
de...
ouais. Heureusement que t'es là, justement, pour les souligner.
Ah bah non. Chacun fait ce qu'on y veut et quand il veut.
C'est le répertoire du consultant.
En tout cas, on va avoir un cartel de très très haut niveau ce soir pour un Rotten Régal, je vous le disais, exceptionnel, puisqu'à partir de 19h, multiplex spécial avant-dernière journée de Ligue 1, bien sûr la course au titre dont on va parler dans un instant entre Lille et le PSG, mais aussi tous les autres enjeux de cette 37e journée avec tous nos correspondants qui sont mobilisés. On sera à Lyon et Monaco pour la course au podium, on sera à Marseille, à Lens, à Rennes pour la course à l'Europe, on sera à Nîmes, à Nantes, à Bordeaux, à Brest aussi pour la course pour le maintien. Bien sûr, comme d'habitude,
ils ont combien de temps de parole?
Ah bah on va
5
voir.
Secondes et chacun.
Non,
il y a Edouard dans le groupe.
Il y a Edouard Jay, oui.
Donc là, c'est problématique.
Ah, il a tout donné hier. À
pendant le match.
Ah oui,
il était.
Il s'est fait évacuer par la force publique et tout. Non, mais
c'était un grand moment pour
lui. Il a vécu une soirée d'enfer.
Ah oui, avec les dirigeants de Lille.
Ah, dangereusement.
Je pense que là,
il y aura 19h pour parler de Lyon. Et dans 30 minutes, Captain, Jérôme va te dire qu'il te trouve trop dur avec Aymeric Laporte. Aymeric Laporte qui va sans doute jouer pour l'Espagne. On a des nouvelles infos à vous donner.
Ah, c'est un opportuniste, mais bon, j'attends les ingrédients de Jean-Michel.
Mais d'abord, la course au titre au menu de Rotten Régal. On va aider Christophe Galtier ce soir à rester zen.
Commencez par sentir le contact de votre corps avec le support sur lequel il se trouve.
Aujourd'hui, personne n'est champion. 4 équipes peuvent être championnes encore aujourd'hui. C'est la réalité de ce magnifique championnat.
Plus qu'une séance de méditation, ici l'objectif est aussi de se confronter à ses angoisses.
Si nous faisons une bonne performance, le club sera qualifié directement en Champions League.
Après, je ne vais pas dire que ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas magique, c'est difficile.
On va devoir être performant et j'en suis persuadé sur les 2 prochains matchs. Allez,
voilà. Ça calme tout de suite.
Bravo Christophe.
Avant 2 matchs.
Franchement là, les déclarations
très, très importants pour Lille évidemment qui peut être champion s'il remporte 4 points. Sur
sûrement il a fait
match.
Mieux en conf de presse. Hein.
On va l'entendre dans un instant. On va accueillir Jean Baumel qui est à Lille.
Ah,
salut Gibo.
Salut François. Gibo. Salut Jérôme. Salut Captain. Bonsoir à tous.
Il est zen Gibo. Il est très très zen parce qu'il sent que le titre se rapproche bien sûr.
Il va être champion.
Lille qui peut être champion dès ce dimanche d'ailleurs.
10 ans après.
Il fait mieux que le PSG. Voilà. Par exemple, s'il bat Saint-Etienne et que Paris ne bat pas Reims, Lille est champion. Ou s'il y a match nul de Lille et que Paris perd, et bien Lille sera champion également. On aura l'occasion d'en parler et on va parler tout de suite, juste avant de revenir sur comment Lille prépare cette rencontre face à Saint-Etienne, de la phrase de Kylian Mbappé cette semaine. Vous l'avez tous entendu. Il a dit que c'était le PSG qui perdait le titre et pas Lille qui l'avait gagné. Avant de se reprendre un petit peu sur Instagram en expliquant que Lille ferait un très beau champion. Alors forcément, on attendait aujourd'hui la réponse de Christophe Galtier. Et le coach lillois, c'était tout à l'heure en conférence de presse. Écoutez.
Kylian est un joueur exceptionnel et il sera, je le pense, toute sa carrière exceptionnelle et il gagnera en maturité. C'est un jeune joueur, mais aujourd'hui, personne n'est champion. 4 équipes peuvent être championnes encore aujourd'hui. C'est la réalité de ce magnifique championnat.
Jérôme, qu'est-ce que tu penses de la réponse avec cette petite pique quand même, un petit peu piquante de Christophe Galtier qui dit que Kylian Mbappé est jeune? Et c'est pour ça sans doute son erreur de com.
Oui, il a pas, je peux pas lui donner tort. Peut-être qu'il a été, il y a eu une petite maladresse dans les propos de Kylian sur le fait, surtout sur le fait qu'il parle de Lille, qu'il parle du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de problème, son club. Et, on, et je pense qu'on est, tout, on est unanime pour dire que le PSG s'est abordé sur une grande partie de la saison. Quand tu perds 8 fois et autant de fois à domicile, oui, c'est sûr qu'il y a très peu de chances que tu sois champion. Pardon. Après, la comparaison avec Lille, elle ne va pas dans le bon sens parce que Lille, en effet, a un nombre de points qui est impressionnant. Et que même si le PSG avait été plus régulier et plus performant, n'empêche que Lille aurait certainement été là. Parce que Lille, sur les confrontations directes avec le Paris Saint-Germain, c'est un nul au match aller et une victoire au Parc des Princes. Ouais. Et donc, ça montre la qualité de Lille. Et c'est pour ça que tu peux pas te comparer aujourd'hui et que ces propos vont forcément être un petit peu mal perçus. Ça peut exciter aussi les Lillois qui en ont peut-être besoin pour réussir à faire un parcours sans faute jusqu'à la fin du championnat, c'est-à-dire gagner les deux derniers matchs, ou au pire faire un nul et une victoire à nul, ils seront champions quand même, les Lillois. Donc pour ça, je te dis que je vais pas en faire une polémique parce que de toute façon, il a parlé comme il avait envie de parler. On va pas empêcher les joueurs de parler. Il y en a trop qui font de la langue de bois.
Au contraire.
Il a dit une réalité et c'est bien parce que à l'arrivée, toutes les critiques qu'on peut émettre sur le Paris Saint-Germain depuis bon nombre de semaines, eh ben, il nous donne raison. Et ça a vexé certains joueurs. Ça a vexé aussi Kylian Mbappé, hein, de le critiquer comme il a été critiqué sur la première partie de saison. Mais c'était à juste titre. Même Jean-Michel avait été très dur avec Kylian Mbappé. Mais lui a réussi à se remettre en question, à revenir à un bon niveau. Il est très bon depuis deux mois. Ce qui n'est pas le cas de tous ses coéquipiers, ce qui n'est pas le cas du Paris Saint-Germain collectivement depuis le début de l'année. Donc c'est bien d'avoir le même constat. Ça veut dire qu'on dit on dit pas forcément toujours des bêtises.
Après, quand tu dis que on s'en sert à Lille, je ne sais pas. On peut demander d'ailleurs, écoute, à Thibaut si
quand tu
vraiment,
vois la semaine dernière les propos de Gaël Kakuta par rapport au derby derrière Burak Yılmaz qui remet les pendules à l'heure, tu vois le match. Bon bah voilà, hein, il y a eu des précédents comme ça. Même on pensait contre Lyon que ça allait mal se passer. Ils ont la tête froide quand même et c'est ça moi qui me bluffe. Et surtout ils s'éparpillent pas. Il y a pas un joueur qui fait des sorties. On sent qu'il y a une vraie maîtrise, que Christophe Galtier couvre bien ses joueurs et qu'il y en a pas un qui sort du rail.
Captain.
Non, autant je trouvais la réflexion, parce qu'elle n'était uniquement sur le fait de que Lille ne soit pas champion, la réflexion de Kakuta, c'était une provocation.
Ouais.
Que Kakuta préfère que ce soit le Paris Saint-Germain au Lille qu'il allait rencontrer. D'ailleurs, il a eu la réponse sur le terrain. Et là, après, Kakuta, il a été quand même extrêmement discret. C'est toujours dangereux de l'ouvrir avant. Très, très, très dangereux. Alors, c'était une provoque. Donc, concernant Mbappé, c'est une maladresse. Mais ça s'arrête là. Je pense qu'il aurait pu simplement dire « Oui, nous ne serons pas champions parce qu'on ne le mérite pas, on n'a pas été bon, on compte déjà 8 défaites au compteur, c'est pas possible. » Bon, s'il avait été très adroit, il aurait dit « Oui, et en plus, nous avons un Lille qui sera un super champion. » Il a un petit peu terni sa lucidité avec cette fin de réflexion.
Ouais.
Mais c'est une maladresse, c'est pas grave.
Oui, exactement.
C'est pas très 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 important ça. Et je pense que du côté de Lille, peut-être que les supporters en ont pris ombrage. Je crois pas que les joueurs aient véritablement rebondi là-dessus. D'ailleurs.
Ah, ça fait parler forcément, Jean-Michel, dans un vestiaire. Mais
tu vois, mais il y a Jardim qui fait aussi une réflexion qui va un peu dans ce sens, que j'ai pas trouvé très sympa.
Est-ce qu'il a pas tort, Jardim, quand il dit, alors on va préciser, pour tous ceux qui n'ont pas lu l'interview dans l'équipe aujourd'hui, l'ancien entraîneur de Monaco, champion en 2017 devant le PSG, il explique que Lille ressemble plus à Montpellier, vainqueur en 2012,
qu'à Monaco. Parce que Paris Saint-Germain avait failli.
Voilà, qu'à Monaco, parce que Monaco était vraiment devant le PSG avec 97 points, il me semble, ou un peu plus de 90 points.
Et que le Paris Saint-Germain avait été très bon cette saison.
Très bon cette saison-là. Et que là, le PSG a moins bien réussi cette saison.
Ça, tu vois. Je pense que c'est pas une question d'âge, c'est une question de sensibilité. Et Jardim, je vois pas ce que ça lui apporte, ça. Moi, je compare à des réflexions que j'ai pu entendre cette semaine d'autres entraîneurs. Kovac. Ben, Kovac, excusez-moi, même si c'est plus facile, mais il a à travers sa réflexion sur l'entraîneur et l'équipe de Rumilly, il a conforté ce qu'il dit depuis le début de la saison. Il est assez classe, le mec. Et quand tu vois les réflexions de Klopp, il est assez classe. Il n'est pas obligé chaque fois de mettre un petit tacle à l'adversaire. Et je pense que Jardim, ou Mbappé, ou Kakuta, de temps en temps, ils sont obligés de parler des autres.
Ouais, et ouais. Comme je l'ai dit, c'est surtout parce que c'est Lille, hein, Jean-Michel. Hein. Et Lille, c'est vrai que moi, je le dis et on le dit depuis pas mal de temps. Je trouve que Lille est un petit peu sous-coté. Tu vois, on attendait, et Djibo te le disait, on attendait qu'il perde au Parc des Princes, rappelle-toi. On attendait
qu'il perde à Lyon. Le Montpellier qui a été champion. Le Montpellier qui a été champion était aussi sous-coté.
C'est pareil, c'est vrai. Non, ouais, oui, mais sauf que, attention, entre le Lille et l'écart, elle est là. Montpellier, c'était surprenant. Personne les attendait là.
Bon, c'était pas le même PSG, hein. C'était le tout début en plus du projet Qatari. Hein.
Lille, on sent quand même que depuis deux ans, il y a une progression avec ce groupe. Alors, je te dis pas que cette année, on les attendait champions de France. Parce que, comme tous les ans, vu le budget, vu les investissements, vu les joueurs, on s'attend que ça soit le PSG qui domine. Mais en effet, il peut y avoir des équipes qui se greffent au Paris Saint-Germain et qui même les dépassent, comme c'est le cas de Lille, comme ça a été le cas de Monaco, comme ça a été le cas de Montpellier, mais c'est plus lointain. Mais pour moi, Lille ressemble plus, et c'est pour ça que le discours de Jardim, je le trouve assez dur, ressemble plus à ce que Monaco avait réussi à faire. C'est-à-dire que, je suis désolé, on voit les matchs. Je veux dire, quand tu gagnes autant de matchs contre des gros comme ça, de cette façon-là, avec des joueurs qui se révèlent et qui sont aujourd'hui à un très bon niveau, ouais. Des joueurs que tu verrais même dans les meilleurs clubs européens. Ouais, ce qui n'était pas forcément le cas de Montpellier à l'époque.
Lille s'appuie sur une très forte défense.
Non, François,
et Montpellier, c'était la même chose.
C'est tout le mérite de
Monaco avait un jeu offensif assez incroyable en 2017, hein, avec Mbappé, Falcao.
Il y avait eu la révélation de Mbappé, du tandem Mbappé-Falcao. Non, mais tout le mérite de Galtier. Parce que je n'ai pas sous les yeux la composition de l'équipe de 2019-2020 de Lille et celle de 2020-2021.
Il n'y a pas beaucoup d'écart. Il y a eu le départ d'Osimhen.
Gabriel est remplacé par Botman.
Et Loïc Rémy.
Et Loïc Rémy par Ibrahima Tillmans.
Voilà. Il n'y a que trois changements.
Eh oui.
C'est les trois majeurs. Au milieu de terrain, tu n'as pas eu de.
T'as les mêmes au milieu.
Sur les côtés, c'était pareil.
T'as les mêmes au milieu. Benjamin André, Soumaré et Sanchez.
Sur les côtés, il y avait déjà Bradaric.
Et Renaldo, il y avait déjà. Et oui.
Ah, bah, tu vois, ça. Comme quoi, parfois, tu ah bah,
j'en parlais avec Thierry Olexiac, d'ailleurs, avant-hier.
Qui est l'adjoint
de Christophe Galtier, qui disait, on a aussi gagné du temps, cette saison, parce qu'on n'a pas eu, beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées. Donc, ça jouait énormément.
La structure du groupe, était là.
C'était plus simple.
En transférant Osimhen 80 millions, il pouvait.
Ils ont pris Jonathan David à 30, c'est pas mal.
Non, mais enfin, il reste 50.
ils ont acheté d'autres.
Pour les fins de mois, ça, c'est
ouais, bien. Il y a Bourak qui coûte un peu quand même. Hein.
Ouais, mais bon, qui a pas
prime à la signature, hein. Tout ça, enfin, il y a le salaire. Non, mais après, pour dans le débat, il y a aussi, on compare aussi forcément avec l'équipe de Lille, championne qui a fait le doublé en 2010-2011, parce que il y avait aussi des individus. Dualité qui était aussi impressionnante. On avait Eden Hazard et Gervinho. Et en fait, cette saison, c'est ce que disait Jean-Michel, le travail de Christophe Galtier, c'est qu'en fait, il a réussi à fédérer un groupe avec plein de joueurs qui n'ont jamais été quasiment à 100% au même moment. Ils le sont peut-être en ce moment d'ailleurs. Ils le sont d'ailleurs sur les quatre dernières semaines, parce que il a son équipe type, hein, peut-être sur le côté droit entre Ikoné, Arojo, ça tâtonne encore un petit peu, mais pour le reste il y a plus de d'incertitude. À l'époque, c'est vrai que c'était plus flamboyant, c'était Hazard, Gervinho, Moussa Sow, ça allait dans tous les sens.
Ouais. C'était magnifique, très très belle équipe de
Ah bah c'était extraordinaire, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait plus costaud. Ça fait moins spectaculaire, mais la gestion du groupe est extraordinaire.
Mais
quoi.
C'est une façon de jouer au football. Encore une fois, c'est pas parce qu'il joue en effet avec une structure plus défensive, du moins en étant plus solide, que cette équipe n'est pas impressionnante. Moi, je suis désolé, dans cette façon de jouer, elle l'a montré à diverses reprises. On les attendait céder. tomber. Rappelle-toi la défaite à domicile contre Nîmes,
bien sûr, oui,
derrière la trêve internationale et ce déplacement au Parc des Princes.
Bah, avec Jérôme, on a été les premiers à dire ça va se passer. Mais...
Ils ont été là
et derrière ils ont répondu présent. Donc c'est pour ça que ce dénigrement, cet acharnement, parce que par moment c'est même un acharnement en disant ouais bah c'est la faute à un tel.
Non,
mais je parle pas de Mbappé. Mbappé pour moi c'est la seule erreur et tu l'as dit et on l'a dit, c'est la petite maladresse sur Lille en se comparant à Lille, alors que Lille il doit même pas s'en occuper. Aujourd'hui Lille, bien sûr que si Lille est champion, Lille fera un bon champion. Moi c'est juste pour revenir avant de te laisser la parole François, c'est Christophe Galtier. Et je le sens pas franc du collier quand il parle comme ça. Nous dire qu'il y a quatre équipes qui peuvent être champions, c'est se foutre un peu de notre tronche quand même. On a l'impression que c'est Rudy Garcia qui parle.
Mais peut-être que c'est son moyen de décompresser un peu la dernière rencontre.
En tout cas,
on va continuer à en parler.
Il nous a pas habitués à ça et en ce moment, c'est vrai qu'il les a enchaînés quand même.
Il y a peut-être une petite peur de Saint-Etienne qui.
Justement, on va en parler.
C'est vrai que l'encre, c'était pas
mal. Non, mais ça marche bien, Saint-Etienne.
Les quatre fantastiques, il va t'en parler, Jean-Michel, tu vas voir.
Duel, c'est pas le style à lâcher les matchs.
Mais les bonnes lunettes, parce que là, tu vas être surpris.
Et on sera à Saint-Etienne jeudi, je vous le rappelle. Si vous voulez voir Captain.
Et Jimbo, tu vas te régaler au stade.
Les voir
de près, comme ça, les quatre fantastiques.
Et Captain Marqué.
Ça doit être impressionnant.
Nortin.
Lille Saint-Etienne.
Abi.
Amouma.
Buanga.
Voilà, il y a ça. Mais il y en a combien des fantastiques à ça.
Ah, mais il en a même dit 5, Jean-Michel, tu vois.
Allez, dans un instant, on vous prend, supporters lillois au 32-16. N'hésitez pas, venez nous rejoindre. Lille qui aborde ce rendez-vous à Saint-Etienne, on en parle dans un instant. On va parler aussi de Neymar, puisque la sanction est tombée. Il ne devrait pas jouer la finale de Coupe de France. On vous explique tout dans un instant. À tout de suite.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. François Pinet.
Jérôme Roten.
18h17 sur RMC, toujours dans Roten Régal, bien sûr. François, on continue notre débat là sur le Lille, sur Mbappé, sur les déclarations.
Je vous rappelle que dans 15 minutes aussi, c'est l'élève contre le maître. Vous en avez l'habitude si vous écoutez Roten Régal. Captain te trouve injuste avec Aymeric Laporte qui a décidé de rejoindre l'Espagne et qui jouera sans doute l'Euro avec l'Espagne.
Il a oublié l'amour du maillot.
Des nouvelles dans
maillot de l'équipe de France.
Bah, oui, mais bon, il n'a pas été sélectionné.
Lui qui a rencontré Charles de Gaulle, Jean-Michel.
Il répond plus. Allez, dans un instant, je vous parle de Neymar et de la sanction du Brésilien, puisque c'est tombé. Il ne devrait pas jouer la finale de Coupe de France. Mais juste avant, c'est promis, on voulait vous prendre au 32-16 supporters lillois pour parler de cette équipe du LOSC qui a deux matchs pour être championne. Marvin est avec nous.
Salut Marvin.
Salut
Marvin, qu'est-ce que t'en penses de notre débat là, les déclarations d'Mbappé sur ton équipe?
Bon, alors, honnêtement, je peux pas lui donner tort, mais c'est maladroit. Il aurait dû s'abstenir de dire ça, mais dans le fond, il y a raison, parce que même si Lille fait une saison exceptionnelle, si Paris avait joué comme il devrait le faire avec leur effectif, même avec une saison exceptionnelle, on n'aurait pas pu être champion. Je pense que Paris fait une mauvaise saison. Et Lille est vraiment exceptionnel au bon moment.
Ouais, on peut mettre une contradiction dans ce que tu dis, c'est que le PSG peut finir avec 82 points. 82 points, on peut pas dire que c'est une mauvaise saison.
Ah non, bien sûr. Enfin, je pars du principe qu'avec tous les joueurs qu'ils ont, les moyens qu'ils ont, enfin, lutter encore à deux journées, ne même pas être promis à trois points de retard sur un club comme Lille, alors qu'il fait une excellente saison, mais quand on compare les deux effectifs individuellement, il n'y a pas photo. Un club comme Paris, alors le football n'est pas une science exacte, mais devrait généralement exploser les débats chaque année.
Oui, mais sauf que ce qui nous rappelle, et c'est bien là le plus important, c'est que le foot est un sport collectif.
Ah oui,
et que même avec des gros moyens, et le PSG le montre, et tu l'as dit, le manque de régularité, le manque de performance collectivement, des joueurs un petit peu en dedans, alors dû aussi à la crise sanitaire, il ne faut pas l'oublier.
Mais je pense que ce qui a fait fort, c'est que Paris n'ont jamais recruté un joueur pour le collectif. Contrairement à Lille, où ils vont chercher un joueur comme André.
C'est pas vrai au milieu de terrain quand ils prennent des joueurs comme Danilo, comme Paredes, comme Herrera,
Danilo, comme Gueye,
et ainsi de suite.
Est-ce qu'on les utilise?
C'est pas des joueurs qui seront des stars.
Je pense qu'il
y a des joueurs de club qui ne rendent pas.
Un apport bénéfique. Un Danilo, alors, parce qu'il fait jouer derrière, je n'estime pas que c'est un c'est un vrai plus.
Gay, ah non, ça, on confirme.
Ah non, mais ça.
Non, mais après, qu'il y ait des erreurs. Chose, qu'il y ait des erreurs de recrutement, ouais. Oui, ça, c'est sûr. C'est arrivé au PSG.
Ouais, non, mais.
Et moi à Lille. Et non, moi à Lille. Qui se trouve gentil. Moins rarement. Moins souvent.
Je te trouve gentil, Jérôme, en disant que. Avec 81 points, tu m'as parlé
82
points, c'est bien. Il reste quand même 8 défaites.
Non, mais j'ai pas dit que c'était bien, ça peut toujours être mieux, mais 82 points, tu regardes historiquement dans le championnat, normalement à 82 points, t'es champion de France.
8 défaites, ça fait tâche quand même.
Oui, non, mais attends, je suis pas en train de te dire que les prestations, et surtout au Parc des Princes, quand tu perds autant
PSG
de matchs.
Champions, ils ont plus de 90 points non, dans les années précédentes.
Oui, mais bon, c'est des années. Oui, mais ils sont champions avec combien de points d'avance,
ah,
François
oui, d'accord,
aussi.
Mais bon, donc tu même dis 82 avaient... points, c'est non. Bien pour le PSG. Quand tu vois par rapport aux années précédentes où ils survolaient le championnat,
c'est toujours pareil.
C'est pas bon.
Tu peux toujours faire mieux, et on est d'accord. Et Jean-Michel, et on les a assez critiqués pour dire qu'il y a des défaites au Parc des Princes, mais même contre les gros matchs. Quand tu perds contre Lyon, quand tu perds contre Monaco, quand tu perds contre Lille, quand
surtout
tu perds contre Marseille,
perds contre...
voilà, au parc, c'est qu'il y a des manques et c'est pas là, c'est pas ces matchs-là, tu les gagnes pas forcément avec les moyens surdimensionnés du Paris Saint-Germain. Tu les gagnes avec un état d'esprit collectivement. On en revient toujours à la même chose et c'est là-dessus qu'il y a eu des failles et qu'ils ont failli cette année le PSG. Mais pour autant, s'ils ont failli, c'est qu'il y a des joueurs qui sont pas faits pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est le constat qu'on doit avoir.
Ça, je crois
mais à côté
tout.
De ça. On peut pas dire c'est une mauvaise saison. Bien sûr que c'est une mauvaise saison d'un point de vue comptable, du moins au niveau du palmarès, parce que s'ils gagnent que la Coupe de France et encore elle est pas gagnée, je pense que le PSG ne peut pas se permettre de faire que ça avec ces moyens-là. Mais après, si tu vas plus loin sur le nombre de points en championnat, 82 points, c'est pas non plus catastrophique.
On va remercier Marvin.
Et ils
les
ont pas encore.
Marvin,
attention.
Supporter de Lille, je le rappelle.
Mais attention, faut finir deuxième pour être sûr de faire la Ligue des Champions. T'es pas à l'abri d'être troisième, faire un tour préliminaire, hein, si.
C'est pour ça qu'il faut, il faut qu'il gagne les deux derniers matchs.
C'est clair et net.
Marvin, merci d'être passé sur RMC. Tu reviens quand
merci
tu veux.
Marvin.
Et
merci à vous,
c'est
avec plaisir.
Et puis, le titre, si jamais il y a un titre
fête,
à Lille.
Hein. Ouais. Bonne fête. Ouais. Même s'il y a encore 4 clubs, comme nous dit Christophe Galtier, qui peuvent être champions.
Je voulais revenir.
Et t'auras eu le pensée pour Kakuta, comme ça.
Je voulais revenir sur la sanction.
Il est Lillois, Kakuta.
Il est né à Lille, comme Raphaël Varane. Ils ont été formés à Lens.
Et toi, pour le Lillois de cœur, ça te fait mal, ça, alors?
Non, moi je suis pour le Racing Club de Lille.
Ouais, c'est ça.
Ah oui, c'est facile ça. Mais après, il doit bosser en même temps, Djibo, hein, donc c'est normal.
Le seul correspondant qui a déjà qui s'est peint là. Tiens, je te jure, il s'est teint les cheveux.
Ah, ça doit être beau.
En couleur de Lille.
Non, il y a Doudou à Lyon aussi.
Ah oui, Doudou, il se cache pas, ouais.
Bon, alors.
Vert d'un côté, bleu, blanc, rouge de l'autre.
Non, vert, non, je crois pas, non.
Je voulais revenir sur la sanction de Neymar.
Vert,
non. Je voulais revenir. Sur la sanction de Neymar. Il a pris un jaune contre Montpellier, vous le savez. Et on a des infos. Comme attendu, la commission de discipline de la fédération a révoqué le sursis, puisqu'il avait un sursis du Brésilien. Et donc, lui inflige ce match de suspension pour la finale mercredi prochain contre Monaco. Mais le club le Paris Saint-Germain peut demander une conciliation auprès du CNOSF, démarche qui peut suspendre la décision de la FFF. En gros, s'ils le font avant mardi, Neymar a une chance de jouer la finale. C'est comme le cas de Cilio, tu sais, avec Lyon. Mais il pourrait rater la dernière journée. Sinon, Neymar sera suspendu pour la finale, mais dispo pour la dernière journée.
Bon, bah alors, qu'est-ce qui est le plus important ?
Qu'est-ce qui est le mieux ?
Bah,
d'être là pour la finale.
Bah, le plus important, c'est quand même de jouer la finale de la Coupe. Aujourd'hui, tout le monde sait. Et puis, quand on entend le discours de Kylian Mbappé, ils se sont fait à l'idée de ne pas être champion de France. Donc lui, il a des... Kylian Mbappé, quand tu l'entends parler comme ça, en aucun cas, il pense être champion de France.
Oui, il a dit qu'il voulait gagner les deux matchs, mais effectivement,
oui,
ça
non, mais
suffira peut-être pas.
Il sait que ça ne va pas suffire. Du moins, il pense ça. Donc je pense qu'à l'intérieur du club, il pense comme ça. Donc,
Pour toi, tu fais le choix, Neymar.
Mais dans ces cas-là, il y a un titre
si
à aller chercher.
Si on a une chance de l'avoir pour la finale.
Ah bah oui, si c'est une possibilité, il faut le faire. Il faut le faire, sachant en plus. Et là, je donne pas raison dans l'attitude générale de Neymar. Mais bon, sur le match de Montpellier, le carton jaune qu'il reçoit, c'est du foutage de gueule. Il mérite jamais ce carton.
Alors, il est sévère, mais est-ce qu'il fait un geste
Non, mais il mérite pas ce carton. Après,
c'est quand même ridicule à ce moment-là du match.
Après, c'est pas le premier joueur qui va être arbitré différemment, dû à sa notoriété, dû à son attitude, dû à plein de choses. Et aujourd'hui, les arbitres sont des êtres humains. Ils peuvent l'avoir dans le pif pour certains, et qu'ils en ont marre de se faire avoir par rapport à son attitude, le fait qu'il réclame beaucoup de choses, qu'il en rajoute sur certaines fautes. Il prend des coups, attention, hein. Mais il est pas on reconnaît, et là c'est sortir dans la peau du supporterisme parisien ou autre, ou du supporter de Neymar. C'est comme ça, Neymar est pas arbitré comme un autre joueur.
Ah, ce qui est surprenant là-dessus, c'est qu'il prend le jaune alors que Savagné, qui fait une faute 3 minutes avant sur lui.
Ouais, bah ça, tu peux toujours comparer. Il y aura toujours des erreurs comme ça, mais c'est vrai que le jaune est sévère. Mais il est dû à plein de choses, hein. Parce que le jaune. Là, je te parle du jaune de Neymar qui est pour moi pas scandaleux, parce que t'as le droit de prendre un jaune qui est pas forcément mérité, mais il le mérite pas. Mais c'est un ensemble de choses. J'ai entendu plein de choses sur l'entrée de Neymar à Montpellier. Alors les gens vont même donner raison à Pochettino de faire rentrer un joueur qui s'est pas échauffé sous prétexte que c'était la séance de tir au but et vu que c'est un des joueurs qui tire le mieux les tirs au but, il fallait le faire rentrer avant la fin. Sauf que quand il rentre, à 3 minutes de la fin, il reste 5 minutes d'arrêt de jeu. Ça fait 8 minutes. Tu penses qu'en 8 minutes, il peut pas faire gagner? La preuve, c'est que le PSG a eu deux grosses occasions en fin de match. Penses que ça mérite pas juste un petit échauffement de la part de Neymar? Et le fait de s'échauffer, mentalement, psychologiquement, tu te mets dans le match. Parce que tu te bouges, tu te réveilles, plutôt que d'être assis dans les tribunes et d'attendre que ton entraîneur te dise « Vas-y, rentre !» Hop, tu rentres, t'es pas chaud, donc tu marches et t'es pas à l'abri de faire des fautes.
Personne peut lui dire qu'il faut s'échauffer.
Ah, bah, c'est
plusieurs. Au PSG.
Mais c'est l'entraîneur qui doit quand même.
Ah, oui.
Mais plusieurs choses. Oui. À un moment donné, il y a le l'adjoint qui lui dit va t'échauffer pendant 10 minutes avec le préparateur physique. Et là, fais-nous 2-3 rondes de jambes. Flexion, extension, saut, ceci. En fait, tu fais ce que tu veux. Tu te changes un petit peu les idées. Mais il y a 2-3 trucs qui me foutent en colère là-dessus. Alors, une chose dont je suis à peu près certain, et l'autre où ça me pose question, la chose pour laquelle je suis à peu près certain, c'est que je me demandais pour quelle raison il était sur le banc de touche. D'accord ?
Ouais.
Donc, léger rhume, petit rhume, avec une petite bronchite. D'accord ? Écoute, si tu as un léger rhume avec un semblant de bronchite, pour un match comme ça, tu penses que c'est indispensable d'être 2 heures sur un banc de touche, un banc de touche, il n'y a plus de banc de touche. Mais d'être sur la touche, Jérôme?
Non, il aurait été mieux dans son canapé, ça c'est sûr.
Et deuxième point, je serais curieux, mais là on ne le saura jamais, je serais curieux de savoir si un dirigeant, un administratif ou un sportif, j'en sais rien, ait dit à un moment ou à un autre à Neymar qu'après ces 3 matchs de suspension plus le sursis, s'il prenait un carton jaune, qu'il allait être éventuellement suspendu pour la 38e journée ou pour... Je serais curieux de savoir si on l'a mis en garde.
En tout cas,
je pense que personne.
Non mais attends, Jean-Michel, t'as besoin qu'on te mette en garde? Tu peux pas te renseigner?
Jérôme, tu sais même pas, t'étais avec un sursis, tu savais pas. Non, mais je ne compare. Bon. Je peux pas comparer les époques.
Mais comment les époques? Mais c'est la même chose. On n'a pas joué à la même époque, Jean-Michel. Mais moi, je savais quand j'avais un carton.
Je suis sûr. Peut-être idiot, mais je suis sûr que le dénommé Neymar, il sait pas qu'il a un match avec
Sursis. Là, c'est encore plus grave.
Et puis on va arrêter là-dessus, mais juste pour vous préciser que Neymar sur Instagram, et ça c'est peut-être un élément
il a dit à l'époque,
une fois que la sanction est tombée, j'aimerais être dans la tête du gars qui a fait la règle des cartons en France. Ça mérite des applaudissements. Donc il le dit ironiquement, évidemment, Neymar. Quel bazar! Voilà les mots employés par Neymar sur Instagram. Donc lui-même ne comprend peut-être pas le système des cartons en France.
Ouais.
Merci Djibo. On te retrouve à 19h. Hein. Sans faute pour un petit
peu
exceptionnel dans Rotten Régal. À ne pas rater, tu nous parleras de Lens à partir de 19h. Allez, tout de suite, le duel Captain face à Jérôme autour du choix d'Emeric Laporte de jouer pour l'Espagne. Restez bien avec nous.
RMC 18h-20h Rotten Régal. François Pinet,
Jérôme Rotten.
18h33 toujours dans Rotten Régal avec François Pinet, avec Jean-Michel Larquet. On a passé une bonne première demi-heure avec Djibo, l'homme de l'année, qui va être l'homme de l'année.
Peut-être.
Qu'on va revoir pendant le multiplex.
Bien sûr, dans une
demi-heure.
19h, bien sûr, multiplex exceptionnel.
Et là, il va y avoir l'élève contre le maître.
Et puis, juste avant, on va présenter quand même le programme du journal moyen.
Tous les bons clients cette semaine, du coach Courbis, du grand coach Courbis, qui mettrait encore un petit billet sur un match. Les semaines se suivent et se ressemblent. Et puis Cristiano Ronaldo a fait des achats, des petites emplettes pour Cristiano. Alors, ce ne sont pas les mêmes emplettes que nous, en fait, quand on Cristiano.
Peut-être que Jérôme.
On va en parler.
Les mêmes emplettes que Jérôme.
On va en parler.
J'aurais aimé avoir la même.
Ah oui. Et on ira le temps. on dira de quoi on parle.
On laisse le suspense.
Exactement.
Je pense que c'est bien.
Exactement.
Très bien, c'est dans 15 minutes. Ah, ça, c'est du teasing. Allez, tout de suite, Jérôme face à Captain. C'est l'affrontement. C'est parti.
RMC. Il faut que je voie le supérieur de mon ordre qui est à la fois sage et puissant.
Il y avait connais-toi toi-même, c'était une affirmation, je crois, de je ne sais plus qui, d'un philosophe. Connais-toi toi-même. La suite du programme, s'il vous plaît.
Le maître contre l'élève. Hey,
je voulais dire, c'est que tu sais maintenant. Pas Sénèque.
Ah oui, tu sais pas, t'as même pas vérifié.
Non, j'ai toujours pas cherché.
J'étais trop occupé. On va parler.
C'est le Big Bang. C'est un peu comme le Big Bang, un truc qui tape.
Qui tape contre.
Tu révises pour la semaine prochaine. Nouvelle étape aujourd'hui pour Aymeric Laporte. La FIFA a entériné aujourd'hui son rattachement à la Fédération espagnole de football quelques jours après avoir obtenu la nationalité espagnole. Il est donc franco-espagnol aujourd'hui, le défenseur de City, qui pourra donc évoluer pour l'Espagne à l'Euro s'il est appelé par Luis Enrique, ce qui devrait être le cas. En tout cas, c'est ce qu'il dit du côté de l'Espagne. Réponse le 21 mai avec la liste espagnole pour l'Euro. Alors, Jérôme n'aime pas ce choix opportuniste. Il va peut-être te le dire, Captain. Toi, tu le juges sévère avec Aymeric Laporte.
Oui, je le juge sévère d'abord parce que Aymeric Laporte avait démontré son attachement, encore faut-il être sélectionné, pour les équipes de France de jeunes où il est passé, je pense, des U16 jusqu'aux espoirs. Il a fait à peu près toutes les équipes. Il a même sans doute fait toutes les équipes. Il a parfois même été capitaine de ces équipes de jeunes. À ce moment-là, il était en formation du côté d'Agen puis de Bayonne. Et il est parti à l'Athletic Bilbao où il a fait sa carrière, ou en tout cas une grande partie de sa carrière professionnelle. Et là-bas, ça s'est bien passé. Ça s'est si bien passé qu'il a été transféré à City. Et Laporte a été appelé par Didier Deschamps. Mais peut-être que Jérôme, qui est un grand ami de Didier, va peut-être me donner des éléments qui m'échappent ou que je ne connais pas. C'est qu'il a été appelé dans un premier temps, je crois, 8 fois comme remplaçant, quelque chose comme ça,
oui,
à l'équipe de France.
Oui, oui.
Et il n'a jamais joué. C'est bien la preuve quand même qu'il n'y avait pas, de la part de Didier Deschamps, d'animosité particulière sur ce garçon. Que s'est-il passé la 8e fois, à l'occasion du 8e rassemblement? J'en sais rien, toujours est-il que, visiblement, il y a de l'eau dans le gaz, il y a du mou dans la corde à nœud, et que Didier Deschamps ne compte plus sur Aymeric Laporte, sportivement et peut-être socialement dans la vie d'un groupe. Et Didier Deschamps a probablement ses raisons. Donc, Aymeric Laporte ne se sent plus désiré du côté de l'équipe de France. Et après avoir passé plusieurs saisons à Bilbao, l'équipe d'Espagne, lui fait les yeux doux. Alors, juste, je comprends que l'on soit attaché au maillot et que ça représente quelque chose d'important. C'est pas à moi qu'on va faire la leçon. Certainement pas
alors
à moi.
Pourquoi tu le défends alors?
Mais non, mais tout simplement, Jérôme, je le défends. Parce que on donne tellement, on donne quelquefois, trop souvent, des circonstances atténuantes à des gens qui sont dans l'illégalité et qui font des choses illégales et on trouve ça presque normal. Là, Aymeric Laporte, c'est son choix, il a le droit de le faire. La preuve, c'est que ça s'est vite passé, vite fait, puisque je crois que c'est hier ou avant-hier qu'il a été naturalisé espagnol, et qu'aujourd'hui, il fait les choses dans la légalité.
Oui.
Qu'après, on trouve à redire, je veux bien, mais on est tellement tolérant avec des gens beaucoup de choses dans l'illégalité.
Donne-moi des exemples.
Au moins.
Donne-moi des exemples de joueurs qui font des choses dans l'illégalité, comme tu dis.
Mais
si, écoute, tu me donnes une.
Je te parle pas.
Moi, je t'écoute. Tu me donnes une leçon. Je t'écoute. C'est quoi l'illégalité des joueurs?
D'abord, je te donne pas de leçon.
Non, mais une leçon, façon de parler.
Je parle d'une manière générale. Dans l'illégalité, dans tout. Dans les affaires, dans le sport. Dans le dopage, par exemple, dans le sport.
Mais bon, on les couvre, ces mecs-là?
Ah oui, il y en a beaucoup qui ont été couverts.
Ah oui,
ça, je peux dire.
Oui, mais pas par nous, on est d'accord.
Et puis parfois, on est très tolérant. Et puis, Jérôme, je sais bien, Moi, je suis un garçon qui a un certain âge, mais entre ce que j'ai connu et aujourd'hui, il y a l'arrêt et Bosman. Et c'est vrai qu'on vit en Europe.
Ouais.
On vit avec des frontières qui ne sont plus des frontières. Moi, quand je passe la frontière à Biriatou, je ne vois plus un garde civil espagnol ou un douanier français.
Tu ne dois pas y aller souvent en Espagne, hein, parce que vu ton niveau d'espagnol...
Non, mais de l'autre côté, il parle français.
Ah, d'accord, c'est pour ça, alors.
Je ne progresse pas quand je fais ça. Mais il faut reconnaître que ce choix-là est peut-être discutable, mais là aussi, il ne faut pas en faire une affaire exceptionnelle. Il est désiré du côté de l'Espagne, il se sent désiré du côté de l'Espagne. Ah bien, moi, ce que j'ai envie de lui dire, bon vent, bonne chance. Et puis, peut-être nul n'est prophète dans son pays. Mais vas-y, Emeric, et puis peut-être que tu vas t'exploser, tu vas t'éclater. Oui. Peut-être aussi que tu vas te faire éclater, on n'en sait rien.
Bon, en tout cas, il est arrivé très jeune en Espagne, hein, à 16 ans, donc peut-être qu'il se sent un peu espagnol.
Un peu plus, peut-être. Un peu plus que.
Non, mais il a le droit aussi de se sentir un peu espagnol.
Non, mais encore une fois, c'est pas le sujet du débat que j'ai eu cette semaine. Et moi, je peux comprendre, Jean-Michel, je comprends tes arguments. Il y a pas de souci. Moi, je suis intransigeant avec ça. Alors peut-être avec d'autres choses, je suis moins intransigeant. Mais moi, j'essaye de combattre ça parce que, en effet, je l'ai connu et je me suis servi de ce qui se faisait avant. Quand tu débutes au niveau professionnel, quand tu t'éduques chez les jeunes, tu vois ce qui se passe aussi au niveau pro et t'essayes de copier des choses. Et on m'a inculqué certaines valeurs. Et pour moi, la valeur du maillot, elle était très importante. Et c'est pas parce qu'on vit dans une autre génération. En effet, il y a Lara Bosman que j'ai connue, hein, que j'étais joueur. Donc je suis capable aussi d'en parler, de ce changement de mentalité, des joueurs étrangers, de plus en plus nombreux dans les pays où le championnat a un rôle très important. Ok, il y a pas de souci. Mais là, on parle encore plus. Là, je te parle de la valeur du maillot déjà pour les quand t'es en club, mais en sélection, c'est encore pire. Bah, pour moi, quand tu mets le maillot d'une sélection en équipe de France, et je parle même pas des équipes de France de jeunes, parce qu'en effet, le règlement t'autorise à le faire, que quand t'es appelé en jeune, tu peux après choisir. Et je peux comprendre. Du moins, je peux pas mettre à la place de ceux qui ressentent l'attachement à deux pays, parce que des binationaux, il y en a partout. Et il y en a très souvent. Mais au bout d'un moment, quand tu fais le choix, au niveau professionnel, du moins à l'équipe de France, du moins au niveau de l'équipe nationale A, bah, c'est un choix réfléchi. Alors ça peut être un choix opportuniste au départ, mais tu n'as pas mis les pieds dans l'autre sélection. Mais une fois que tu as mis les pieds dans l'autre sélection, que, que tu rentres en jeu ou que tu ne rentres pas en jeu, Jean-Michel, tu l'as rappelé, il a été appelé 8 fois. 8 fois, il ne joue pas. Mais 8 fois, il a monté les marches du château à Clairefontaine. Eh ben, je suis désolé. Pour n'importe quel joueur français, ça représente énormément de choses. Et quand tu fais ça avec l'équipe de France.
Il s'est passé des choses
s'est passé des choses, Jean-Michel. S'il a pas joué, s'il a pas été rappelé.
Ah, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi.
Peut-être qu'il a pas eu la bonne aptitude aussi. Didier Deschamps, il est pas complètement bête.
C'est pas par hasard qu'il l'a appelé 8 fois, hein, non plus. Je suis d'accord avec toi, Jérôme.
Exactement.
Jérôme, tu ne peux pas en faire l'affaire. C'est un choix personnel.
Il supportait certainement pas le rôle du remplaçant. Comme il supporte pas aujourd'hui le rôle de remplaçant qu'il a à Manchester City. Parce que s'il a
perdu. Mais tu supportais pas le rôle de remplaçant, toi, non plus.
Ben, je l'ai pas connu. Donc, je peux pas te. Non, je l'ai pas connu. Et j'ai eu la chance de pas connaître. Quand tu te chopes, c'est différent. Mais ça, c'est de moi, on s'en fout. C'est pas la question. Lui, la question, c'est à Manchester City. Aujourd'hui, il est devenu remplaçant. Donc peut-être dans quelques mois.
Sport, hein.
Mais oui, exactement. Mais s'il a perdu sa place, c'est pour plein de raisons aussi, pour son niveau sportif, mais aussi au niveau de son état d'esprit. Parce que Guardiola, style qu'a Emeric Laporte, je pense que s'il était dans le bon état d'esprit, il serait encore titulaire aujourd'hui à Manchester City.
Donc mais ça, un jour ou l'autre, il perdra la... Mais Jérôme, c'est pour ça que c'est un opportuniste
et que je me bats.
Si c'est comme ça,
je me bats, Jean-Michel.
Il paiera l'addition.
Mais on peut pas.
On peut pas aller dans le sens
de la sélection comme ça à faire. Eh ben, je joue plus. Je suis plus appelé en équipe de France. Eh ben, maintenant, je vais me demander la nationalité espagnole et je vais aller jouer pour l'Espagne. Parce que là, c'est aller trop loin et c'est pour ça que moi, que je combats ça. Moi, je vais pas lui couper la tête à Aymeric Laporte. Il a décidé de faire ça.
Après, d'accord. Encore une fois, il a des liens avec l'Espagne, même si ce sont pas
liens avec l'Espagne.
Du sang, mais oui, mais il a des liens parce que.
Mais Jean-Michel te l'a rappelé. T'es en équipe de France de jeunes. T'as fait toutes les sélections. T'as même été capitaine.
T'as même été capitaine. Il aurait dû choisir l'Espagne avant.
Mais on peut considérer que.
Exactement. Mais s'il se sent plus espagnol que français, il n'y a pas de problème.
Il n'avait pas le passeport, donc il ne pouvait pas choisir l'Espagne.
Mais alors, pourquoi il n'a pas demandé avant, alors? Expliquez-moi pourquoi il n'a pas demandé avant.
Dans la tête de quelqu'un, dans la tête de quelqu'un, il y a peut-être aussi une forme de dépit amoureux. Il aurait aimé.
Mais alors il s'accroche et il donne tout pour être encore appelé. Et il change son état d'esprit s'il pense qu'il a fait des erreurs. Voilà.
Eh oui, je suis d'une tolérance rare par rapport
c'est vrai,
à Jérôme.
Hein. C'est pour ça que l'élève contre le maître, j'ai l'impression que l'élève dépasse le maître.
Jean-Michel, je ne te comprends pas sur cet amour du maillot. Que toi, en plus, ta génération, vous l'avez encore plus connu que moi.
Ne m'avance pas comme argument, moi, qui n'ai pas eu l'amour du maillot.
Mais si, je n'ai pas dit ça. Au contraire, je mets ça en avant.
Mais je dis que... j'arrive à comprendre.
Mais comment
tu peux comprendre
ça? Il y a peut-être
du dépit amoureux. Parce que je suis plus tolérant que toi.
Parce qu'il a joué au Pays-Bas.
Je donnais l'exemple à François avant l'émission. Je lui disais, tu sais, pour moi, c'est important. C'est comme la trajectoire d'un joueur dans des clubs. Quand tu décides d'aller dans un club, t'es très content, tu signes un beau contrat. Mais quand tu les mets les pieds dans un club, il y a des clubs rivaux où tu sais que c'est quasiment interdit derrière... que ça soit une réussite ou pas dans le club où tu signes, de signer dans l'autre club. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des... un joueur du Milan AC, je vais te prendre le Milan AC, par exemple. Oui. Le Milan AC, qui est un joueur important du Milan AC qui signe un beau contrat à Dru. Ça marche pas, le lendemain, il va signer à l'Inter Milan.
Aujourd'hui, il y en a des cas comme ça. Aujourd'hui, il y en a plein.
Et c'est pas pour autant que des mecs bien.
Pirlo, il a joué au Milan, à l'Inter.
Attends, c'est différent. Il est passé avant. Il a une trajectoire, une carrière. Non. Quand ça se fait 5-6 ans après.
Il a joué dans tous les clubs italiens.
Ouais, non, mais Zlatan, c'est un exemple au niveau du côté amour du club. T'as vu comment il a dit sur le football français, sur le Paris Saint-Germain à l'époque.
Bon.
Non, mais écoute.
On doit se quitter là-dessus.
Ben oui.
Mais on revient tout de suite.
On peut pas lui donner raison, Aymeric Laporte.
Parce que c'est le journal moyen.
Erreur,
mais c'est le journal moyen d'Adrien.
Je lui souhaite de réussir. Et de jouer au moins.
À ne pas rater. À tout de suite. Eh oui, le monde change, monsieur Roten, que vous le vouliez ou non. Maintenant, les joueurs changent de club comme de chemise.
Donc en fait, il n'y a plus d'attachement à un pays, il n'y a plus d'attachement à un club.
Mais
non,
quand,
mais c'est
quand
bien.
Captain, quand Captain a eu Lyon qui voulait le récupérer, il n'est pas allé. Toi, quand Marseille voulait le récupérer, avec pourtant un gros chèque.
Je prenais l'exemple de Frédéric Dehue, qui est passé de Lens au Paris Saint-Germain et à Marseille. C'est bien ça, non ?
C'est vrai.
Et puis, il y a eu l'ailier droit, là. Comment s'appelle-t-il ?
Mais il y a eu Barcelone entre les deux, mais il a fait Paris-Marseille direct. Mais comme Fiorez à l'époque, c'était la même.
Fiorez, voilà, Fiorez, le Savoyard.
Pour moi, c'était inconcevable. Et il y en a qui l'ont fait. Et il y a eu des réussites. Il y a eu des réussites. Il y en a qui ont fait des bonnes choses à Paris. Loric Sana a été formé à Paris, a commencé à Paris et j'y étais. Derrière, il a signé à Marseille. Il est devenu capitaine de l'Olympique de Marseille.
Il y a behind the. Allez, il y en a plein.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. François Pinet,
Jérôme Roten.
18h49 sur RMC, toujours dans Roten Régal. Allez, on finit la première heure avec François Pinet, Jean-Michel Larquet.
Avant une deuxième heure exceptionnelle.
Après 19h, c'est le multiplex.
On sera à Lyon, Monaco, Marseille, Lens, Rennes, Nîmes, Bordeaux, Brest. Gros moyen dans Roten Régal, on a fait bosser tous les consultants et tous les correspondants. Tous les enjeux de la dernière journée de Ligue 1, ça sera dans Roten Régal.
Puis on en a fait un autre beau chèque. L'homme qui va parler maintenant.
Le journal moyen, c'est très cher.
Ouais,
du journal moyen de la semaine dans Roten Régal sur RMC. L'humour était présent sur RMC cette semaine pendant les directs. C'est bien, c'est sympa. Du grand coach Courbis, un peu de Jérôme Roten et un peu de voitures qui vont vite. Vous écoutez RMC, il est 18h passé de 50 minutes.
en direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Roten Régal.
Adrien Aigouin.
Beaucoup de choses donc cette semaine, du direct, et pendant le direct on passe du bon temps en ce moment sur RMC. Lens Lille, Clément Michelin vient de prendre un carton rouge, Christophe Cessieux nous régale.
Vas-y Christophe. Les Lillois ils vont commencer à avoir un peu de pression.
Est-ce qu'il y a une route de secours à Lensoise pour remplacer Michelin?
Ben non, mais là je pense qu'il va passer à 4 derrière.
Voilà, ouais. Merci Christophe Cessieux.
Jibo, il enchaîne, Thibaut.
Il se venge après. Il répond quand même, Thibaut. Ouais, excellente vanne. Lens Lille, Jean Baumel et toute la bande.
Jouer à la Rémoise avec Gaël Kakuta qui redonne vers Klaus. Le centre à venir de Klaus. Ça rat de sol. Mais c'est pas tiré, c'est dégagé par Bourak qui est partout. Le Turc qui est.
On peut dire qu'il tient la Bourak.
Ouais, là, on a. Je pensais à un titre, messieurs. La Bourak a pris. Oh, il me l'a piqué.
Ils sont bons, ils sont très bons. Jérôme Roten, dans Roten Régal. Oui, une histoire de chevaux. C'est pas très grave, Jérôme.
Et encore une fois, je le répète, on s'embête assez sur certains matchs pour. Voilà, là, il faut y aller, là, quoi. Libérer les chevaux.
Oui, il faut libérer les chevaux qui sont en prison, Jérôme. Oui, faut pas les lâcher. Canal Plus, je regarde aussi les matchs sur Canal Plus, parce que pour l'instant, ils diffusent encore la Ligue 1. Le direct, c'est aussi donc à la télé. Paul Choucriel commente Lens Lille, et pendant le match, incroyable, il est en plein match, c'est chaud, hein, c'est le titre qui se joue, etc. Il pense à son coiffeur.
Centre la tête de David qui est tombé sur Jean-Louis Lécal. Le ballon était sorti peut-être au départ.
Il était sorti, je pense. Ouais. Et Jean-Louis David.
Sur Jean-Louis Lécal. C'est mieux dans ce sens.
C'est mieux dans ce sens-là. Il s'en rend compte, il en rigole. Voilà, c'est pas, et puis après Rennes Paris Saint-Germain. Olivier Talaron. C'est un petit coquin, Olivier Talaron. Il interroge Moïse Kean, je pense personnellement. Qu'il s'est fait plaisir, Olivier Talaron, en interrogeant Moïse.
C'est pas encore perdu, on croit tous les matchs, on s'entraîne jusqu'au bout.
Et il faudra un miracle maintenant, Moïse, quand même.
Ouais, mais nous, on donnerait 100% pour gagner le premier poste.
Et sur les images, juste un petit sourire, je pense qu'il a fait un pari avec un pote. C'est du Talaron, c'est pas mal.
C'est pas mal. Bravo, Olivier.
Sans transition, c'est l'instant, coach Courbis.
Quand tu es cocu, j'ai toujours réfléchis, est-ce que tu es cocu par ta femme ou par le mec qui va avec ta femme?
Voilà. Faut y réfléchir à tout ça, François. Oui, les semaines se suivent et se ressemblent pour coach Courbis. Le coach met de temps en temps, c'est pas un secret, un petit billet sur les matchs. Il réagit en direct en fonction des événements. Souvenez-vous, on va se rafraîchir la mémoire, la semaine dernière, le coach avait même mis un petit billet sur du rugby, sur La Rochelle. Oui. Le buteur Rochelet va toucher le poteau. Écoutez le direct.
La pénalité pour La Rochelle, Julien Richard.
Allez, très loin, sur la ligne médiane, la puissance de Yaya West, il a le vent avec lui, il touche le poteau, attention à la récupération.
Ça sort du cœur, on sent que le billet s'est envolé de la poche. Bon, voilà. Les semaines se suivent et se ressemblent. La suite, Lyon-Lorient. Lyon-Lorient, le coach est à Lyon en plus, il commente le match, je pense qu'il a mis un petit billet sur Lyon. Oui. Lyon-Lorient, normal. Kadewere se présente seul face au gardien.
Excusez-moi, mais si Lyon trouve la brèche, bon, il n'y a pas Keita aussi, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit. Mais
attention, le ballon perdu, Kadewere est seul face à Nardi. La frappe, l'arrêt de Nardi en deux temps. Il avait deux chaudes possibilités. Troisième tentative, Bruno Guimaraes chez la défense lorientaise.
Ça sort toujours du cœur.
C'est exceptionnel.
Franchement, c'est exceptionnel. Moi, j'aime le coach. Ne change jamais, coach.
Non.
Coach Courbis, toujours lui. Le coach était dans Top of the Foot hier, je vous écoutais, c'était excellent, François.
Merci.
Sur RMC, on évoque la suspension de Neymar déjà, un éventuel appel auprès du CNOSF. CNOSF.
Il n'a pas été expulsé. S'il a été expulsé, donc là, ça serait la, comme il dit...
L'affaire de Silio.
FSNO.
CNOSF. Non, mais c'est CNOSF.
Il faudrait qu'il fasse appel où?
SNOSF.
CNOSF.
L'organisme là que.
L'organisme là qui m'agace.
Et merde. Pourtant, je l'avais aidé.
Le SOS.
Mohamed Bofsi, vicieux.
Oui, vicieux, Mohamed.
Quand tu veux aider le coach, Mohamed, tu
veux l'enfoncer.
C'est dommage, j'ai écouté cette semaine. Je suis pas tombé sur ces.
Non, ça c'était après 20h.
Ah non, après 20h, il y a Coach Courbis et il y en a des pas mal. Faut écouter. Il est bon.
Allez, transition, on termine avec l'instant. Bah, c'est les deux passions de Jérôme, les voitures, le foot. C'est l'instant.
On a des belles passions.
L'instant voilà. Cristiano. Alors, on réunit tes deux passions, le foot et donc les belles voitures. Je vous raconte un peu la vie de Cristiano. Nous, le lundi, on va au bureau à 9h, François, on prend le métro,
tout à fait,
un petit café à la machine,
la
et puis on
9,
commence à travailler. Voilà, on les journaux, tout ça. Je vous raconte le lundi de Cristiano nous Ronaldo.
Ouais, c'est ça.
Si, c'est vrai. Moi, c'est la 6 et la 8.
Et le chauffeur, alors qu'il vous dépose,
moi, c'est les lignes 6. Je change à la mode piquée. Je la 8.
La 8, comme moi.
Vous êtes comme Madame Hidalgo. Vous prenez le vélo, mais.
Voilà.
En fait, dans le métro.
Alors, je vous raconte un lundi de Cristiano. Cristiano, déjà, il est dispensé d'entraînement. Ça fait un peu jaser peut-être dans le vestiaire. Il se rend avec son président André Agnelli au siège de Ferrari à Maranello. Cristiano a salué les deux pilotes Ferrari, Carlos Sainz et Charles Leclerc. Ils ont fait des photos, petite opération, etc. Et donc, quand on est Cristiano, on a envie de se faire un petit plaisir. Qu'est-ce qu'il faut ? Il voit une voiture, il voit une Ferrari. Eh bien, il l'achète. Voilà, c'est la vie de Cristiano. Il a racheté une Ferrari à Maranello. Il a acheté, Jérôme, la Monza SP2. Moi, j'y connais pas grand-chose. Ouais, peut-être que tu aimes les Ferrari.
Ouais, c'est à peu près 1 million, ça.
Un million pour toi ?
Un peu plus.
J'en ai aucune idée, moi.
François, il a le prix de son passe Navigo, 72,50 €.
C'est déjà très cher.
Jean-Michel Larquet, une idée d'une Ferrari. C'est une Ferrari, on peut aller sur la route avec. Hein.
Oui, mais c'est la grosse Ferrari.
Ah oui, c'est pas la Ferrari de Charles Leclerc.
Eh ben, mise en vente.
C'est pas une Ferrari 4 places quand même.
Non, c'est deux.
En plus, c'est 2 places et c'est plus. Moyen de place, plus c'est cher.
1 million, mais sans option. C'est 1 million sans option.
1,6 million. 1,6 million d'euros. La vente est exclusivement réservée à ceux qui sont déjà des clients réguliers de Ferrari. C'est une carte d'entrée quand même. Il faut déjà être propriétaire d'une Ferrari pour pouvoir éventuellement acheter cette Ferrari. Bravo Cristiano. C'était le lundi de Cristiano Ronaldo. C'était lundi sympa.
Alors. Écoute, bravo Cristiano.
T'es pas jaloux ? Non, c'est bon.
Il a raté l'entraînement du lundi.
Le garage est plein déjà.
Non. Apparemment, non. Excuse-moi. J'aimerais bien qu'elle soit. Le garage soit plein comme avec des Ferrari. Comme
non, mais
Cristiano,
ça doit être triste comme ça de pouvoir acheter tout ce qu'on veut.
Bah oui, c'est plus rien de valeur.
Ouais, c'est vrai que c'est.
Voilà.
Moi, je préfère mon métro.
C'est comme l'amour
vive
du maillot.
Vive le métro.
Bravo, Adrien.
Vive le métro. Voilà. Ligue 8.
Bon week-end. Allez, repart dans la Ligue 8.
Oublie pas ton chauffeur. Il arrive en 10 minutes.
Allez, on revient dans Rotten Régal. Deuxième heure exceptionnelle avec Captain, avec Jérôme, bien sûr, et tous nos correspondants mobilisés pour la fin de la saison et l'avant-dernière journée. Tous les enjeux. C'est dans un instant dans Rotten Régal, à tout de suite.
RMC 18h-20h.
Rotten Régal.
RMC
18h-20h.
Rotten Régal. François Pinet.
Jérôme Rotten.
19h sur RMC, allez, c'est reparti pour Rotten Régal, pour la deuxième heure de Rotten Régal avec François Pinet, bien sûr, avec Jean-Michel Larquet. On a passé une bonne première heure, on a refait un peu. Le monde du foot, là.
On se félicite, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'était une très bonne première.
Allez, passez vite.
La deuxième va être exceptionnelle. N'oubliez pas aussi de vous inscrire pour le quiz en fin d'émission au 32-16. Votre mission, c'est de faire gagner Captain.
Il a gagné la semaine dernière.
C'est parce que j'étais pas là.
Il avait mis fin à une.
À mon avis, il y a eu de la triche.
Une lourde. C'est possible que Antoine.
C'est toi qui dis ça. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité.
On verra ce soir, Captain.
Non, mais c'est vrai qu'il a été aidé. J'ai vu Antoine lui parler dans le loup, mais c'est pas grave.
Mais c'est pas grave,
Antoine, il n'était pas là la semaine dernière.
Ouais, si.
Le maintien, la course à l'Europe, la course au podium. On va parler de tout ça maintenant avec tous nos correspondants qui sont mobilisés pour cette avant-dernière journée de Ligue 1. Et on y va tout de suite. Le multiplex de Rotten Régal, c'est parti.
RMC Rotten Régal.
Et la casquette qui s'en est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette qui s'en.
Le multiplex.
Alors, on va faire ce multiplex en demi-temps, avec deux équipes de correspondance ce soir. Il va y avoir les deux équipes. En deuxième mi-temps, dans 30 minutes, on fera rentrer Nicolas Paul Orsi, Pierre-Yves Leroux et Julien Landry pour parler de la lutte pour le maintien. Voilà, les remplaçants.
Ouais.
Mais d'abord, les titulaires.
Les titulaires,
on accueille d'abord un finaliste de la Coupe de France, Clément Brossard à Monaco. Salut Clément.
Salut François, salut Jérôme, Clément. Salut Captain. On est là pour faire la différence en première période et puis après, voilà, les coiffeurs s'occupent du reste.
Exactement.
Il est en embuscade, il n'attend qu'un faux pas de Clément et de l'ASM pour surgir. C'est le Lyonnais Edouard Jacques qui est là. Salut Edouard.
Salut à tous.
Salut Dodo.
Moi je tiens que 27 minutes hier soir. J'espère tenir 30 minutes.
Ah oui, le problème.
Jusqu'à l'égalisation de Monaco.
On va réduire la première mi-temps. Ils peuvent remercier Monaco parce que désormais la 6e place est qualificative pour la Coupe d'Europe. La Conference League, la fameuse que l'on va découvrir l'année prochaine.
On a hâte.
Flo Germain est là à Marseille avant Marseille-Angers. Salut Flo.
Je ne m'occupe que de la 5e place personnellement. Bonjour à tous.
Jean Baumel, on le retrouve dans le Nord avant le match de Lens face à Bordeaux. Salut Djibo.
Là, j'ai l'embarras du choix, moi.
Salut Djibo.
creux.
Bah oui, il pense au titre, forcément. Et Xavier Grimaud pour les Rennais qui se déplace à Monaco. Salut Xavier.
Salut messieurs, la sixième place on la prend hein, ici.
Salut Xavier. Ah ouais.
Bah on te la laisse. Ah tout ouais, va bien, pas la peine de finir le show.
Lance aussi hein, lance très bien. Prenne, hein. Voilà cinquième plutôt. Pour embêter Flo.
Bah oui, la cinquième, la sixième place.
La Conférence Cup, je suis pas sûr que Grenoble ait des yeux, ça l'intéresse.
Il va se faire avoir. Il y en a un des trois.
Ah, il a pas dit ça aujourd'hui.
Ah ouais. Jérôme. C'est vrai. Non. On va en parler. Mais on va commencer par la course au podium.
Il est ambitieux. Pep devient ambitieux, c'est incroyable.
Avant de parler de Rennes et de Pep Genesio, on va commencer par la course au podium.
C'est pas le bon.
Messieurs, merde. Monaco, troisième, un point d'avance sur Lyon. Monaco qui reçoit Rennes alors que Lyon va à Nîmes. Donc ça, c'est important. Ça peut se jouer ce week-end. Clément, Monaco qui est en mode commando visiblement cette fin de saison avec une mise au vert à rallonge décidé par Nico Kovac, vraiment à rallonge pour le coup.
Ouais, après la victoire d'hier, ils sont en effet retournés dans leur bulle, les monégasques confinés depuis lundi dans ce qu'ils appellent une bulle de performance, et ce pendant 10 jours. Deux objectifs: le premier sanitaire, c'est limiter les contacts avec l'extérieur pour une équipe qui a régulièrement été frappée par le Covid cette saison hein, ces dernières semaines, avec 6 cas positifs depuis le mois dernier. Ils logent dans un hôtel à quelques mètres du centre d'entraînement de la Turbie, le personnel est restreint, testé régulièrement, sinon il n'y a que des membres de l'AS Monaco. L'autre objectif de cette bulle, eh bien, c'est de rester focus sur la fin de saison avec ses deux derniers matchs en Ligue 1 contre Rennes dimanche et à Lens lors de l'ultime journée, plus la finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain mardi prochain, pour tenter de remporter ce titre attendu sur le rocher depuis 1991. Et cette mise au vert a été décidée par Nico Kovac, Paul Mitchell et James Bunce, le responsable de la performance, après approbation évidemment des joueurs. 10 jours, c'est comme si on partait en sélection, nous a dit Caio Henrique la semaine dernière. Nos familles savent que c'est pour notre bien et le bien du club. Et puis les joueurs le vivent plutôt pas mal hein. Les matchs s'enchaînent, donc ils ne voient pas trop le temps passer. Pour vous donner une idée, s'ils sont arrivés cette nuit vers 3h après leur demi-finale de Coupe de France, donc ils étaient de repos ce matin avant une séance d'entraînement cet après-midi. Et quand il y a un creux dans la journée, eh bien les joueurs et le staff, ça donne aux jeux de société, au tennis de table, à la pétanque. Il y a également une piscine intérieure, un court de tennis où se présente la paire Kovac. La paire Kovac avec les frères Nico et Robert. Voilà, ça joue un petit peu de la balle jaune. Ça se taquine, ça se chambre, mais évidemment ce sont des moments assez rares hein, car l'essentiel des journées est consacré à la préparation de ces prochains rendez-vous capitaux pour Monaco.
Je leur ai donné
piscine et tennis,
c'est, c'est dans ma propriété. Je leur ai donné les clés, je leur ai dit allez régalez-vous. Voilà, la Turbie, ils sont bien. Ils sont bien. Non, mais c'est vrai qu'en plus de ça, alors là il y a un contexte qui est particulier, mais à Monaco souvent dans les équipes qui jouent quelque chose en fin d'année, parce que quand t'as rien à jouer, il y a aucun intérêt de faire une bulle comme ça ou de se retrouver ensemble pendant quelques jours, mais souvent c'est arrivé. Moi, je sais que les années où j'étais avec Didier Deschamps, le moment du Grand Prix, parce que le Grand Prix arrive ce week-end, à ce moment-là, on essaye de te couper un petit peu du monde pour que tu restes vraiment focalisé sur tes performances et sur l'ambition du club, parce que tu peux vite t'éparpiller.
Ah oui,
je te confirme.
Passons puzzle, oui.
Tu peux vite penser à autre chose.
Et Kovac, il a pensé à tout ça, tu crois? Il s'est dit, je suis à Monaco, il a tout de suite compris que ça fonctionnait comme ça.
Mais je pense que Clément va pas dire le contraire. Kovac, la grande force qu'il a depuis le début, et c'est pour ça que ça a pris aussi vite, c'est que toutes les habitudes du club, il les a assez respectées, il s'est servi de ça. De l'ADN de ce club, ce que certains dirigeants ou membres, tu vois, il y a des joueurs, des gens qui sont très importants au club, qui sont dans l'ombre, mais qui sont là depuis bon nombre d'années, et il a su s'ouvrir et écouter ce qu'on avait pu lui dire, et ça a été aussi les erreurs commises par Moreno, par exemple, par Jardim de temps en temps, même si Jardim était une réussite à Monaco, ou par Thierry Henry quand il est revenu.
Ouais. Et puis il s'est mis les pieds, hein, Nico Kovac, quand il est arrivé, il a dit bon, je sais très bien que je suis à Monaco, il y a le soleil, il y a la plage, il y a les plaisirs, mais avec moi vous allez travailler. Donc voilà, il a dit directement. L'idée qui tient bien son vestiaire aussi, c'est une petite anecdote, mais ça montre également qu'il a peut-être ce pouvoir sur ses joueurs. C'est qu'hier, après le match de Rumi, évidemment les joueurs comptaient le faire, mais il a félicité ses joueurs et il leur a dit bon, maintenant vous sortez tous et vous allez donner tous vos maillots aux joueurs de Rumi. Voilà, ça montre un peu qui est Nico Kovac dans son caractère, et tout le monde s'est exécuté. Donc c'est vrai que dès qu'il demande quelque chose, voilà,
c'est pas anodin hein, si les joueurs ont validé cette mise au vert pendant une dizaine de jours.
Parce qu'ils doivent valider.
Ils ont été mis au courant, les cadres ont été contactés et tout le monde
est. Ils ne peuvent pas dire, ah bah non, moi je ne la fais pas, la mise au
clair. Non, mais attends, alors.
Ils sont obligés.
C'est toujours très compliqué de l'exprimer ou de le raconter parce que les gens vont dire, oh, les pauvres, partir 10 jours comme ça. C'est vrai que les saisons sont denses. Alors même si Monaco n'a pas joué la Coupe d'Europe, ça prend beaucoup psychologiquement, tu vois, ça te bouffe du jus. Et en fin de saison comme ça, c'est là que c'est difficile. Et donc t'as accepté en effet une mise au vert de 10 jours qui ressemble à un rassemblement avec ton équipe nationale quand tu joues deux matchs, ça peut être fatigant. Il faut surtout pas que ça soit pris comme ça. Ouais. Parce que si t'y vas avec le frein à main, c'est le meilleur moyen pour te casser la figure.
Alors, il y a le contexte sanitaire aussi, hein. Faut le souligner. Plus, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu le Covid. Caio Henrique disait, moi, par exemple, je l'ai eu, mais je sais que beaucoup de mes partenaires l'ont pas eu et on veut absolument pas avoir de nouveaux cas à deux journées de la fin, sachant qu'il y a la finale de Coupe de France qui arrive.
Pas de mise au vert à Lyon, Edouard, a priori.
Je pense qu'ils s'entendent un petit peu moins bien avec Rudy Garcia. Je sais pas pourquoi.
Rester 10 jours avec Rudy Garcia.
Je pense qu'il y en a qui n'ont pas envie.
Bon. En tout cas, justement, on va parler du coach lyonnais qui va vivre, Edouard, son avant-dernier match sur le banc lyonnais.
C'est surtout Juninho et Rudy Garcia qui ont peut-être pas envie de se retrouver 10 jours ensemble.
Il a été question de son avenir en conférence de presse une nouvelle fois.
Oui, pour la énième fois.
Parce que aussi du banc lyonnais, bien sûr, pas que
exactement, c'est une espèce de fil rouge depuis 5-6 mois et fatalement, eh bien, un confrère y est allé. Alors avec le sourire, petit sourire, voilà, Rudy, tu vas faire les deux derniers matchs. Et donc, Rudy Garcia sentait qu'avec ce sourire allait arriver justement cette question. Du coup, bah, lui a souri et tout simplement, ça nous a dessiné l'absence totale de traces de stress dans les yeux de Rudy Garcia. Et puis, vous allez l'entendre aussi dans la voix, c'est le même état d'esprit, concentré sur l'objectif, et puis son cas, on le verra après, la réponse de Rudy Garcia sur ce fil rouge de l'année, son après OL.
Très content, je travaille bien, on s'entend bien, il y a plein de points positifs. Après, on s'en tient à ce qu'on a dit avec les dirigeants et on fera le point quand le championnat sera terminé. Après, c'est un peu logique, tout ce qui se passe ou tout ce qui se dit en ce moment, à partir du moment où un joueur, un coach est en fin de contrat, il y a plein de rumeurs et plein de choses qui circulent. Mais bon, franchement, c'est pas un problème particulier. L'essentiel, c'est de gagner à Nîmes. Le reste importe peu.
Voilà, il a parlé même de logique de situation. Alors, bien évidemment, du coup, on en arrive aux noms qui circulent. Hein. Donc, on a pu les lire ça et là. Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Sassuolo. On entend encore, bien évidemment, Laurent Blanc, Patrick Vieira, parce que ce sont des noms qui viennent à chaque fois qu'il y a un changement de banc à Lyon. Paolo Fonseca, l'entraîneur de la Roma. Alors, moi, dans mes radars, j'ai toujours le même. Hein. Christophe Galtier, le très désiré Christophe Galtier, même s'il y a la piste niçoise qui est bien réelle. Naples, là aussi, approche. On l'a déjà dit, et puis tout comme un autre club italien ces dernières heures, mais l'OL est bien décidé à faire ce qu'il faut pour emporter la mise. Et puis après, il y a pourquoi pas l'option Juninho. L'idée est vraiment dans l'air, mais avec toujours ce problème, c'est qu'il n'a pas le diplôme, donc il faut qu'il passe ce diplôme. Et ça peut pas se passer en un claquement de doigts. À noter que tout le staff, sauf Claudio Cassapa, est en fin de contrat, donc à la fin de cette année, là, au mois de juin 2021. Et on murmure aussi le nom de Gérald Baticle pour Angers, lui, l'entraîneur adjoint.
Alors, il y a une petite précision aussi, puisque Jean-Michel Aulas a tweeté, le président, en parlant de Gallardo. Il a dit, Gallardo a fait savoir à l'OL qu'il ne se libérera pas avant décembre. Il est en contrat avec River Plate, donc il ne rejoindra pas Lyon, a priori. Et il précise, l'OL n'a pas pris de contact avec d'autres entraîneurs et il reste dans l'attente de la fin du championnat avant de se prononcer, contrairement aux propos de l'équipe. Voilà, il met un petit tacle à l'équipe aussi.
Oui, bon, après... On en doute que Rudy Garcia, quoi qu'il se passe, va prolonger l'aventure dans tous les cas. Donc Edouard le disait,
il ne va pas prolonger l'aventure.
Donc après Jean-Michel Aulas, il peut nous expliquer comme il veut. On le sait déjà depuis un certain temps. Après, le tout, c'est de... Et là, je rejoins Rudy Garcia. Il faut avant tout se concentrer. Je pense que tous les joueurs se sont mis à l'idée que de toute façon, Rudy Garcia ne sera plus là, que lui-même sait aussi qu'il sera plus là. Par contre, laisser le club en Ligue des Champions, c'est bien là l'essentiel. Et qu'il faut gagner ces deux derniers matchs pour surtout pas avoir de regrets. Parce que ça ferait tâche si Lyon n'arrivait pas à gagner ces deux derniers matchs. au moins un sur les deux qui est un faux pas, par exemple à Nîmes, et que Monaco laisse aussi des points et qu'à l'arrivée ils finissent quand même quatrième du championnat. Donc ils sont focalisés sur cet objectif-là. Je pense très certainement que cette victoire à l'arraché à Monaco dans ce contexte-là leur a fait énormément de bien dans le fait de d'être de nouveau ambitieux et d'avoir de grandes chances de finir sur le podium. Et ils vont se servir de ça pour faire un sans faute. Du moins, moi, je les vois pas faiblir sur le match à Nîmes et puis le dernier match à domicile, bien sûr.
Ouais, malgré les doutes autour de Rudy Garcia, ouais, ça n'aura pas d'influence sur le groupe.
Les doutes, Edouard te le disait et nous le rappelle très souvent. Je pense que les doutes, les joueurs savent depuis un bon bout de temps qu'il va pas re-signer, oui, Rudy Garcia.
Non, mais je veux dire,
et ils ont fait abstraction tout ça. Peut-être que
certaines équipes, ça peut avoir une influence négative.
Je pense qu'il y a eu une mauvaise influence sur certains matchs quand Lyon a laissé des points dans la façon de jouer quand tu fais une mi-temps sur deux. Je pense que ouais, il y a des choses dues au fait que l'entraîneur ne va pas prolonger. Tu peux trouver des excuses de ce côté-là, mais là depuis maintenant un mois, non, c'est fini. Ça, il pense plus à ça.
À 19h13 sur RMC dans Rotten Régal, on va continuer bien sûr notre multiplex spécial 37e journée de Ligue 1. Clément Edouard, vous restez avec nous pour nous donner des infos dans un instant sur les groupes lyonnais et monégasques, et on va parler de cette course à l'Europe avec Marseille, Lens et Rennes engagés. Il y en a un des trois qui ne jouera pas l'Europe la saison prochaine. Restez bien avec nous.
RMC 18h-20h Rotten Régal. François Pinet,
Jérôme Rotten.
19h15, toujours dans Rotten Régal. Allez, on continue notre multiplex. François, on perd pas de temps.
Multiplex exceptionnel. Et dans un instant, on changera l'équipe. Hein, parce que Clément Brossard, Edouard Jeff, Lo Germain, Jean Baumel, Xavier Grimaud sont avec nous, mais ils commencent à fatiguer. Donc
entendu. Alors j'espère qu'ils sont fatigués de parler quand même.
On fera des changements dans un instant pour parler du maintien, bien sûr. Mais on va parler de cette 6e place qui est devenue qualificative pour la Coupe d'Europe. Ça t'a pas échappé depuis la qualification de Monaco en finale de Coupe de France.
On va s'éclater avec la
Conférence League, la nouvelle compétition à venir. La 5e place devient qualificative pour la Ligue Europa. Donc voilà, ça devient intéressant. Du coup, qui restera sur le carreau entre Marseille, Lens et Rennes, entre Flo, Djibo et Xavier, on verra ça. Marseille est 5e, devant Lens seulement la différence de but. Rennes est 7e à un point de ses deux concurrents. On va commencer par toi, Flo, avec l'Olympique de Marseille. Marseille qui reçoit Angers, et Sampaoli, qui était en conférence de presse aujourd'hui, a pris des décisions pour avoir un groupe plus concerné pour les deux derniers matchs de Marseille.
Exactement. Souvenez-vous, après la défaite à Saint-Etienne, il a pointé du doigt ce qu'il appelait des intérêts individuels, personnels, qui prenaient un peu trop le pas, selon lui, sur l'intérêt collectif. Bon, en gros, la fin de saison, l'incertitude qu'il y a chez certains joueurs, ou même le fait que beaucoup vont partir, notamment parce qu'ils sont en fin de contrat. Tout ça, selon lui, perturbait un petit peu l'OM. Et l'une des décisions, alors au départ, franchement, moi le premier, on s'attendait à ce qu'il vise des joueurs qui ont joué à Saint-Etienne. Ça paraissait logique. Tu fais une mauvaise perf à Saint-Etienne, tu regardes qui potentiellement peut l'avoir déçu, et notamment dans l'attitude, aurait provoqué cette sortie de Sampaoli. Finalement, d'après nos infos, les trois joueurs qui en font les frais directement, ce sont Cuisance, Kawi et Valère Germain, puisque ces trois joueurs, c'est vrai, on l'a constaté, n'étaient pas à l'entraînement ce matin, et on a pu fouiller, travailler, et en fait c'est le cas depuis mercredi. Ils sont à l'écart du groupe, en salle, musculation, vélo, tout ce que vous voulez, mais pas d'entraînement collectif. Donc en fait, Sampaoli a décidé de travailler avec un groupe resserré jusqu'à la fin de saison. Il estime que c'est le meilleur moyen pour fédérer un peu le groupe, concerner le groupe, aller chercher ces places européennes. Alors ça a fait grincer quelques dents, hein, on m'a dit en interne, parce que en plus on a affaire à des joueurs qui, dans l'état d'esprit, c'est pas eux qui vont mettre le feu dans un vestiaire, a priori. Enfin, Cuisance, je maîtrise un petit peu moins, mais Kawi et Valère Germain ont été quand même des joueurs plutôt exemplaires dans l'état d'esprit. Ils ont pas toujours eu du temps de jeu. Et donc la décision est celle-ci, de travailler avec un groupe très réduit. Voilà, ça a un petit peu agacé certains coéquipiers de ces joueurs-là, parce qu'ils se disent ok, là c'est eux, mais peut-être que
ça, c'est quand même une décision facile.
Ah ouais, ça c'est sûr que c'est un peu facile. Alors d'autres joueurs,
je trouve quand même que c'est, je sais pas si c'est pour être en adéquation avec ses déclarations, Cuisance qui lui a sauvé un peu le début de
Il a mis deux buts lors des premiers matchs, de Sampaoli.
Le début de son aventure. Mais Kawi, dont je ne connaissais même pas l'existence, et je m'en excuse, ou veuillez m'en excuser, et Valère Germain,
pourtant, on a un peu plus que l'autre. On l'avait vendu comme le futur Di Maria.
Honnêtement, honnêtement, sans pas, je pense que c'est pas très très courageux.
En tout cas, Valère Germain, il se faisait pas d'illusions sur son avenir, ouais, parce que il a joué 0 minute. Ouais. 0 minute depuis que Sampaoli est arrivé. Ouais. Kaoui n'était pas dans le groupe à Saint-Etienne. Juste rapidement, là, aujourd'hui en conf, Sampaoli, il a dit qu'il voulait gérer des situations émotionnelles. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui génèrent de la confusion en fin de saison, et donc lui, sa tâche, il dit, c'est de trouver les joueurs qui sont vraiment concernés par ce match. Bon, c'est bizarre parce qu'il y a 10 jours, il nous disait que Valère Germain s'entraînait très bien et qu'un jour il aurait sa chance. Donc, on n'y comprend pas grand-chose.
Après, ces trois joueurs,
il va falloir parler de Sampaoli.
On est sûr qu'ils vont quitter le club. Ces trois joueurs.
Ouais, oui, non, mais
peut-être
après,
qu'ils préparent aussi la saison prochaine avec cette décision.
Bah oui, mais dans ce cas-là, fais-le jusqu'au bout et tu.
François, c'est pas ce qu'a dit Sampaoli à l'issue du match.
Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais on est à deux journées de la fin, on sait que Germain est en fin de contrat, Kaoui aussi, que non, s'il est prêté, ils vont pas rester.
Il a dit que ceux qu'il avait sur le terrain, il n'était pas satisfait, et que pour les matchs à venir, il prendrait des gens qui se sont investis à 100%.
On ne s'attendait pas à ces noms-là.
C'est pas le premier entraîneur qui, à deux journées de la fin, veut avoir un groupe restreint, réduit, pour focaliser tous les joueurs qu'il a à disposition. Ça, je peux le comprendre. Après, ce que je comprends pas, c'est que ça arrive suite à une défaite, donc à Saint-Etienne, et que Marseille, ils sont pas en mission commando, quoi. Dire, s'ils étaient en mission commando à Saint-Etienne, ils auraient fait un autre match dans l'état d'esprit déjà.
Et d'ailleurs, Jérôme, c'est le retour que j'ai quand même de la commanderie, c'est-à-dire qu'il est grand temps que la saison se termine.
Ouais.
Les esprits sont usés, la saison a été longue, et il a du mal à fédérer. Il y a pas une véritable, il y a pas trop d'âme dans cette fin de saison, en compétition sur la pelouse. Mmh. On sent pas, comme tu l'as dit, un groupe qui a faim et qui veut aller chercher cette Europe.
Bah, exactement.
Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont effectivement peut-être la tête ailleurs.
Alors de l'âme, il y en a à Lens, hein, Djibo, en revanche. Là, il y a de l'âme, là, quand même. Hein.
Ah bah.
Ils se déplacent chez un mal classé Bordeaux. Et forcément, là, ils sont 6e, donc qualifiés pour la Coupe d'Europe, hein, du coup. Est-ce que ça change quelque chose, d'ailleurs, du côté des.
Lens, connu deux fois cette saison, deux défaites consécutives. Bon, là, c'était contre le PSG et contre Lille, donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ils sont passés à travers, forcément, contre Lille. C'est les deux matchs, d'ailleurs, cette saison. Hein. Les deux derbies n'ont pas été bons. Ils ont toujours su rebondir. Alors, il y a pas mal d'absents, quand même, mais on sent que, voilà, il y aurait. Francaise veut relativiser, il avait dit pas cette semaine, mais la semaine d'avant, que 7e, ce serait déjà de toute façon une saison réussie. Après, c'est sûr qu'une place en Coupe d'Europe, après, il faudra voir aussi, hein, tout le monde se dit, est-ce que c'est pas trop rapide pour le Racing Club de Lens d'aller en Coupe d'Europe? Voilà, je pense que s'ils peuvent y aller, ils vont y aller à fond. Mais leur espoir, je pense, c'est de bien finir et de terminer même 5e. Alors, c'est vrai, il y a Bordeaux, il y a le dernier match contre Monaco, et pour rappel, ils ont gagné à Monaco lors du match aller.
Ouais, donc calendrier difficile pour Lens. Dubo nous disait
avec un déplacement à Bordeaux, calendrier difficile.
Oui, non, mais avec le match contre Monaco, c'est ça.
Ouais, est-ce que Calcutta préférerait que ce soit Bordeaux en deuxième division et Toulouse en première? Il n'a pas dit.
Ça pour mettre à Calcutta et défendre la porte, ça t'es pas le dernier. Hein. Ça c'est sûr, on a compris.
Bon. Mais en tout cas, Lens 7e, est-ce que ça serait une déception? De ne pas être en Coupe d'Europe
à la base, c'est pas une déception. Le club vient de retrouver la Ligue 1. Ils font une saison remarquable à tous les niveaux, en termes d'état d'esprit, en termes de collectif, avec un entraîneur qui découvrait ce niveau-là en Ligue 1. Et franchement, ils ont été surprenants. Donc, je pense que de la fierté, ils en ont ramené beaucoup dans le Nord et du côté de Lens. Et ça, les joueurs en sont convaincus. Après, il faut continuer, il faut aller au bout de l'aventure. Et là, on parlait du groupe de joueurs tout à l'heure à Monaco, la mise au vert à Lens. Et je te le dis parce que je le sais, parce que j'ai parlé avec beaucoup de joueurs de Lens et du staff et du club. Ils te disent que ce groupe-là est fabuleux. Qui vivent super bien ensemble, ils prennent du plaisir à s'entraîner, à aller en mise au vert, à faire les matchs. Donc avec cet état d'esprit-là en fin de saison, c'est toujours important de l'avoir. Et je suis persuadé qu'ils seront au rendez-vous déjà à Bordeaux et qu'après, ils joueront une finale contre Monaco. Le problème, c'est l'adversaire. Lens, c'est pas la meilleure équipe de France et que quand ils jouent des équipes du haut du tableau, ils vont galérer, ils vont avoir du mal parce que Monaco, à son niveau, va certainement battre Lens, comme Lille a battu Lens, comme
comme Lyon, Lyon a la capacité de battre Lens.
Et comme un Paris Saint-Germain moyen a battu Lens.
Et ben voilà, donc c'est pour ça. Mais il faut quand même mettre en avant. Et c'est pas parce qu'ils finissent septième, si jamais ils finissent septième, que la saison sera ratée. Non,
non, pas du tout, pas du tout. Mais bon, il y a peut-être une petite déception. Là,
ah, il y aura une déception. Bah,
vu le jeu proposé, c'est vrai que.
Et puis retrouver Lens en Coupe d'Europe, je pense que ça peut être pas mal si jamais les tribunes sont ouvertes aussi. Enfin, on l'espère avec des supporters.
Je pense que
ça peut être.
Du moment qu'on change le ministère des sports, je pense qu'on va y arriver.
Pour le Racing Club de Lens, bien sûr.
Hein,
Djibo.
Oui, bah.
Djibo, il va avoir sa place. Il va avoir sa place en Coupe d'Europe et son titre.
Non, mais si on change la ministre des sports, on aura du monde dans les tribunes.
Bon, on va y arriver quand même.
Il insiste.
Bah, je lui reproche le fait d'avoir encore des tribunes vides et la finale de Coupe de France, tribune vide. Voilà. Ah,
bah, ce serait bien de savoir au mois d'août ce qu'on pourra faire quand même pour la reprise du championnat.
Ah, ouais. Ça, je sais pas.
Pour la troisième. Pour la septième place, encore. Pour l'instant. La septième place, elle est occupée par le Stade Rennais, Xavier. Bon, Xavier Grimaud. Le Stade Rennais qui reste sur un match intéressant à Paris. Un nouveau test à Monaco, cette fois, pour l'équipe de Genesio. Et pourtant, avec Genesio, Jérôme, et oui, que tu le veuilles ou non, ils semblent sûrs de leur force, les Rennais. Ça y est, ils ont trouvé leur général.
On l'a vu à Bordeaux il y a 15 jours. Vas-y.
Ouais, il y avait des faits de jeu.
Je plaisante.
Oui, je sais bien. En tout cas, Rennes aborde ce sprint final avec de la confiance, à juste titre, parce que la dynamique, elle est quand même là. Et le match face au PSG l'a montré. Bruno Genesio, qui était encore déçu tout à l'heure en conférence de presse du match face à Paris, parce qu'il le dit clairement, on aurait dû gagner et on aurait pu passer cinquième, parce qu'on avait fait ce qu'il fallait pour déstabiliser un petit PSG, certes, mais les Rennes avaient fait un vrai bon match. Donc, Genesio, très élogieux sur Monaco. L'équipe la plus spectaculaire à avoir joué en 2021, mais je sais qu'on peut leur poser des problèmes vu qu'on en a posé au Paris Saint-Germain et qu'il voit son équipe progresser individuellement, collectivement. C'est vrai que Rennes joue bien, Rennes est capable de se créer des occasions, Rennes marque beaucoup de buts depuis l'arrivée de Bruno Genesio. La sixième place, ça change beaucoup de choses pour le coach et pour les Rennais, parce que c'est une Coupe d'Europe tout simplement et que ça permettrait au club d'atteindre les objectifs en début de saison. Selon Genesio, 6 points, si on fait le plein, on sera dans les 6. Il pense que Lens et Marseille feront, ou l'un des deux feront un faux pas. Il y avait François Pinault à l'entraînement aujourd'hui. C'est pas si courant que ça, même s'il est voisin, il habite à Dinard. Il a parlé aux joueurs au début de l'entraînement. Beaucoup d'encouragement pour qu'ils aillent chercher ses victoires pour essayer d'avoir une Coupe d'Europe. Alors, Jérôme, tu raillais un peu la Conférence Cup avec cette 6e place. Certes, c'est une Coupe d'Europe qu'on va découvrir, une Coupe d'Europe au rabais, mais bon, pour l'instant, si on regarde les clubs virtuellement qualifiés, il y a des clubs comme Tottenham, Villarreal, Mönchengladbach, la Roma. C'est pas une Coupe d'Europe non plus de club bidon. Et ce serait surtout une quatrième qualif consécutive en Coupe d'Europe pour le Stade Rennais, messieurs. Quel autre club a fait ça en France? Quatre qualifs consécutives en Coupe d'Europe. Bah, personne à part le PSG. Donc ça montrerait quand même que Rennes est.
Il y a de la stabilité.
Il y a de la stabilité et progresse quand même.
Ouais,
de saison,
moi, je sais pas si on peut appeler ça une progression, Xavier. Là, t'es gentil encore parce que.
Et Lyon,
là,
ils l'ont fait, non?
Bah, Lyon, l'a fait.
Non, Lyon, ils n'ont pas.
Sur les dernières années, tu veux dire?
Ouais, sur les 4 dernières années.
Ah oui, d'accord.
Sur les 4 dernières années, bien sûr.
Tu sais que le football existait avant,
on fait dire ce qu'on veut.
Oui, mais ça montre quand même. Non, mais messieurs, vous êtes de mauvaise foi. Ça montre quand même un club qui est capable de se qualifier tous les ans pour la Coupe d'Europe.
Et sinon, le repas avec Flo Maurice et Pep Genesio, ça s'est bien passé.
Mais il y avait des retours.
En tout cas, ils mangent pas avec toi, ça c'est sûr.
Putain, là, ils t'en ont mis plein la tête. Là. Wow, c'est une bombe qui nous a envoyé Xavier, mais bon là, écoute, moi je. Bon.
Je trouve que c'est quand même la preuve d'un club qui serait régulier. Certes, il serait dans la petite Coupe d'Europe, mais voilà, ça montre quand même qu'ils sont capables de se qualifier tous les ans et c'est une preuve d'un club qui s'installe dans le stade.
Dans le multiplex avec vous, vous êtes 5 infos, une info chacun, messieurs. Clément Brossard à Monaco, info sur le groupe de Monaco avant Monaco-Rennes.
Oui, alors Nico Kovac a affirmé hier soir après la victoire face à Rumi Ivalière qu'il avait bon espoir de récupérer Jovetic, Diop et Diata pour ce week-end. On en saura certainement un peu plus après la séance d'entraînement de demain prévue au stade Louis II, mais ce sera un moindre mal, hein. Les Monégasques qui commencent à tirer un peu la langue là, surtout dans le secteur offensif où les solutions sont plus restreintes. Il y aura également Pellegrini qui sera de retour, également l'Italien qui a purgé ses deux matchs de suspension.
Edouard, même chose, quelles infos pour le groupe lyonnais avant Nîmes?
Alors Mattia Deschilio suspendu, forfait de Tino, Kadewere, des incertitudes concernant Jason Denayer ou Djamel Benlamri. Par contre, retour de Depay, Marcelo, Cacré, de Melvin Barr. Bref, il y a un groupe très compétitif pour le déplacement à Nîmes.
Flo, des infos de la compo probable du coup pour Marseille contre Angers.
Oui, on peut se lancer sur une compo très probable pour dimanche. Mandanda dans le but, trois axios, Sakai, Alvaro Balerdi, Lirola piston droit, ouais. Luis Enrique piston gauche, Rongier et Camara au milieu et trio Payet, Tovin, Milik. Vous avez remarqué, Tchaleta Tsar, qui a déçu le staff par son implication et ses performances, devrait être sur le banc des remplaçants contre le SCO.
On suivra ça bien sûr. Djibo, des absents à Lens avant d'aller à Bordeaux, tu nous en parlais, lesquels?
Aïdara, Michelin, Silas, Otoka, tous suspendus. Voilà, bon, ça tourne bien du côté de Lens, hein. Normalement, ça ne devrait pas trop pénaliser l'équipe de Francaise, mais bon, Otoka, c'est un joueur important, mais ces derniers temps, blessure, suspension, il joue un peu moins.
Et des retours importants à Rennes, Xavier.
Ah oui.
Oui, retour d'Eduardo Camavinga et de Steven Nzonzi de suspension. Là. Il y a le retour d'Adrien Truffert également, qui était blessé aux adducteurs. Il sera peut-être un peu juste pour débuter. Donc on devrait avoir l'équipe type des dernières semaines avec le milieu de terrain Camavinga, Nzonzi, Flavien Tay, Doku, Bourigeaud et Terrier. C'est en point, mal. Donc Guirassy devrait retrouver une place sur le banc.
C'est pas mal pour cette équipe du Stade Rennais. C'est la mi-temps de ce multiplex. On va donc changer d'équipe. Clément, Edouard, Flo, Thibault, vous êtes remplacés.
Allez, les losers.
On a fait la différence. Ils ont bien dimanche.
Je garde Xavier parce qu'il a été bon.
Ouais, exactement.
Oui, moi je reste 90 minutes. Hein, j'ai du foncier.
Mais ne prononce pas le mot de Bruno Genesio.
C'est vrai, c'est son mot ça.
On joue dimanche, on doit s'économiser nous aussi.
Allez, vous êtes remplacés à dimanche. On va parler du matin avec Brest, Bordeaux, Nantes et Nîmes. Restez bien avec nous dans Rotten Régal. À tout de suite.
RMC. 18h-20h. Rotten Régal. François Pinet, Jérôme Rotten.
19h33, toujours sur RMC, bien sûr, dans Rotten Régal. Allez, on finit la dernière demi-heure avec François Pinet, Jean-Michel Larquet.
Un Rotten Régal exceptionnel.
Un multiplex exceptionnel. Voilà. On a reçu donc les 5 maillons forts de l'année. Voilà. Là, maintenant, il y a les
remplaçants.
Les super subs, moi. Le fond du bus.
Eh oui.
Le fond du bus.
La lutte pour le maintien.
Ah, le fond du bus, on l'a entendu.
J'en ai entendu un. Julien Landry est là pour les Nîmois, 18e. Salut Julien.
Bonsoir, messieurs.
Allez, on va remonter le classement un petit peu. Il est juste au-dessus, les barrages.
Julien, très bon sur le rugby. Hein.
Oui. Pierre-Yves Leroux est à Nantes. Salut Pierre-Yves.
Salut, mais qu'est-ce que je fais là? Nantes est premier de Ligue 1 depuis un mois devant Paris et Lyon.
Non, t'es bien à ta place. T'es bien à ta place, tu joues le maintien.
Ah bon?
Eh oui. Un peu plus haut, mais il tremble. Il tremble. Nico Paul Orsi à Bordeaux. Salut Nico.
Salut les gars, salut à tous. C'est moche d'avoir parlé de foncier à Gibault et Edouard G quand même. Je trouve ça moche.
Et il est resté dans l'équipe, il est toujours là. 90 minutes, il les tient. Xavier Grimaud, pour des Brestois pas encore sauvés. Rebonsoir Xavier.
Bonsoir, même pas les jambes lourdes.
Par contre, je comprends pas parce que Gilbert Bribois, il est venu une fois. Genre, on est tranquille, on craint plus rien. Et depuis qu'ils ont les
supporters,
il est plus là, il a disparu totalement.
Il est parti en vacances. Je sais pas s'il reviendra.
Il reviendra à la fin du championnat.
Quand on sera en Ligue 2.
Ouais. Allez, on commence. On va remonter le classement petit à petit. On va commencer par toi, Julien. Nîmes, qui est à 2 points de la place de barragiste. Il reçoit Lyon ce dimanche. Est-ce qu'ils y croient vraiment, les Nîmois? Julien,
ils y croient parce que dans les gènes de ce club, des remontées totalement impossibles, impensables, ça fait partie de l'histoire de ce club-là. On pense tous évidemment à la saison 2015 où les Nîmois avaient 10 points de retard au début du mois de janvier en Ligue 2 et que tout le monde les pensait condamnés à redescendre en National et qu'ils avaient fait cette fameuse Nîmontada, le mot à la mode depuis quelques jours du côté de Nîmes. Ils s'étaient maintenus en Ligue 2. La saison suivante, ils étaient montés avec Magic Blackar et puis il y a 2 ans, pareil, au mois de décembre, ils étaient 20e en Ligue 1 et ils avaient fait une phase retour exceptionnelle pour se maintenir. Alors oui, les Nîmois y croient, on a pu croiser quelques supporters cette semaine. Alors évidemment, ils sont en train de faire plein de calculs, ils sont en train de tout regarder, mais voilà, ils sentent cette équipe capable de faire des exploits. Ils ont été gagnés à Marseille, ils ont été gagnés à Lille, ils avaient fait un nul au match aller du côté de Lyon contre les gros cette saison. Les Nîmois ne sont jamais passés à côté, et bien il va falloir évidemment qu'ils fassent des exploits parce que tu l'as dit, c'est Lyon qui vient au Costières dimanche et ils finiront à Rennes dans 10 jours, donc évidemment le calendrier des Nîmois est sûrement le plus compliqué de tous les prétendants au maintien, mais voilà, ils s'accrochent au fait que cette équipe-là, elle est capable de renverser les montagnes. Alors évidemment, il va falloir réaliser 2 exploits, mais les Nîmois sont plutôt, alors on va pas dire confiants, mais voilà, ils sont plutôt dans l'espérance de se dire que ce club-là est capable de réaliser des exploits et de renverser les montagnes, et ça passera évidemment dès dimanche par la venue de Lyon au Costières.
La Nîmontada, vous y croyez, Capitaine Jérôme?
Le problème c'est l'adversaire.
Ah oui.
Bah oui, bien
le
sûr.
Problème c'est l'adversaire. Ben oui, il joue Lyon, Lyon qui joue une place
en Rennes.
Non, mais déjà, déjà Lyon. Étape par étape parce que
oui,
parce
ça pourrait être fini dès ce week-end pour Nîmes.
Exactement, mais ils peuvent pas faire un match nul, il faut qu'ils gagnent. Donc il faut battre Lyon. Comment ils vont battre Lyon quand tu vois les derniers matchs de Nîmes? Je suis désolé, ben Julien, tu nous rappelais le calendrier, les derniers matchs et puis les années d'avant, les remontadas. Mais le problème, c'est que Nîmes, depuis le début de l'année, à domicile, c'est très faiblard. Oui. Ça doit être deux victoires sur l'ensemble du championnat. Et puis sur les cinq derniers matchs à domicile, ils n'en ont pas gagné un.
Donc, en étant en défense supériorité numérique.
Et puis en jouant des équipes, on peut pas dire les meilleures de Ligue 1 quoi. Strasbourg, Reims, Saint-Étienne, Montpellier, Nantes. Donc si t'arrives pas à battre ces équipes là, comment tu vas battre l'Olympique Lyonnais? Ouais. Moi je suis assez pessimiste. Après ça reste un match de foot.
Hein. Je crois pas. Capitaine non plus j'imagine.
Puis Magic Blackard n'est plus là.
Magic Blackard n'est plus là. Mais juste une petite remarque. Le calendrier de Nîmes est difficile. Mais dans les équipes qui vont lutter, Brest, avec un déplacement
Alors on va y aller à Brest,
et une réception du Paris Saint-Germain, c'est pas simple non plus.
Mais sauf que Nîmes, capitaine, si Nîmes perd tous ses matchs, ils sont sûrs de descendre, alors que Brest, avec un concours de circonstances, en perdant tous leurs matchs, ils peuvent arriver à se maintenir.
Tiens, on va y aller à Brest, justement, puisque tu m'as fait cette passe décisive. Xavier, Brest, c'est vrai qu'ils sont assez hauts dans le classement par rapport au reste, ils ont 40 points, mais bon, c'est pas fait. En revanche, il y a mobilisation générale là, du côté de la Bretagne, j'ai l'impression.
Ouais, totalement. Mais Jean-Michel a raison. Il y a mobilisation générale parce que la situation l'oblige. La pente, elle est très dangereuse pour les Brestois. On avait quand même très peu cité leur nom aux Brestois comme étant une équipe en danger pour le maintien. Le problème, c'est que c'est l'avant-dernière pire équipe de 2021 derrière Dijon. Il y a Bordeaux également qui est pas loin. Il y a très peu de victoires. Ils ont 3 points sur Nantes. Hein, on le rappelle, 18e avec une moins bonne différence de but que les Nantais. Ça veut dire que Nantes, Si Nantes gagnait, Brest perdait encore, il passerait devant. Il y a eu cette défaite un peu insensée le week-end dernier à Nice, 3-2, alors que Brest a mené 2 fois au score. S'est retrouvé toute la deuxième période en supériorité à 11-10. Et mais ils ont tout gâché. Le match du maintien était gâché dans les grandes largeurs. C'est très chaud parce que le dernier match à Le Blé, ce sera le Paris Saint-Germain qui devra peut-être l'emporter à tout prix pour conserver ses chances de titre. Donc il reste Montpellier. Montpellier, Julien nous le confirmera, qui va peut-être être en claquette. Il y aura plus grand chose à jouer pour les Montpelliérains. Il faut maintenir à distance, surtout pour les Brestois, Lorient et Strasbourg, parce qu'il y a 2 points pour l'instant entre les deux équipes. Il y aura un Strasbourg-Lorient en dernière journée, donc les deux équipes ne pourraient pas le dépasser. Voilà, il y aura un bon bilan à faire à la fin de la saison, parce que cette équipe brestoise, c'est un peu la déliquescence sur la deuxième partie de tableau. Olivier Dalloglio est annoncé éventuellement.
Ils avaient été brillants en première période.
Ils avaient fait beaucoup de jeux, Jean-Michel, mais ils avaient toujours encaissé énormément de buts.
Il faut que tu marques 4 buts à l'extérieur pour gagner un
exactement.
Match. Tu vas pas me gagner exactement. Beaucoup, ça c'est sûr.
Ouais, l'attaque est un peu moins bonne. Romain Fèvre n'a plus d'influence depuis maintenant 4-5 mois. Il tire la langue. Donc voilà, il y a un bon bilan à faire.
Plus tout à fait ce que c'était.
L'Arseneur, c'est plus très bon. Voilà, donc il y a effectivement des questions. Et il y a eu mobilisation générale également du côté des Ultras. Ça s'est fait de manière pacifique, mais ils ont interrompu l'entraînement pendant 5 minutes avant-hier pour bien donner aux joueurs l'envie de sauver le club. On espère évidemment que les Brestois l'ont, mais il y a un petit peu le feu. Ouais. Au niveau pourtant, du bout du monde pour les Brestois.
Les supporters ne devraient pas être énervés parce que j'entends tous ceux qui analysent le foot sans forcément connaître la haute compétition, mais qui te disent ces clubs-là, le plus important, c'est le spectacle, ce qu'ils mettent en place, un jeu spectaculaire, ce qui était le cas de Brest, on l'a mis en avant.
Avec son entraîneur,
Comme quoi ça suffit pas, ils se reconnaîtront.
Les grands spécialistes.
Mais tous les grands spécialistes qui te disent, mais le plus important, c'est quand même ce que
on va
tu.
Se sauver par le jeu.
Le jeu, le spectacle que tu donnes aux supporters et là-dessus, ils te le rendent bien
enfin,
à la preuve.
À Clermont, par exemple, ils montent en Ligue 1.
En jouant bien. Mais ça t'empêche pas.
Donc,
mais
des résultats.
Oui, mais sauf que François.
C'est quoi ce discours là?
Nantes est en train de s'en sortir par le jeu.
Ce discours, en fait, bien sûr que vaut mieux bien jouer au football pour gagner des matchs. On est d'accord.
C'est la conséquence de bien jouer.
Mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Xavier vient
de
te le dire.
T'arrives en Ligue 1, tu dois bétonner.
Mais est-ce que c'est bétonné? Le discours que j'ai, c'est bétonné.
C'est Jean-Louis Tourcoing.
Tout de suite, François, toi, tu sens. En fait, vous êtes focalisé dans un style de jeu. Il faut absolument que les équipes, elles jouent comme ça et tout ça. Bien sûr que c'était flamboyant sur la première partie de saison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas flamboyant du tout. Tu regardes Brest jouer. Tu crois qu'ils ont été flamboyants quand ils ont perdu à Saint-Etienne?
Non. Mais
à Nice,
non,
là. Ils ont gagné à Nice.
Vous avez entendu Pierre-Yves, le salut de Nantes viendra peut-être par le jeu. Dynamique très positive, déjà par le jeu. Pierre-Yves, qui affronte le relégué Dijon pour se sauver.
Par une amélioration, ils étaient tellement nuls. Il y avait Tomena qui était passé par là.
Vas-y, Pierre-Yves.
Non, mais de toute façon, je ne sais pas ce que je fais là. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Lille, Paris, Lyon, c'est derrière Nantes. Non, mais la dynamique, elle est importante parce que sur ce classement du dernier mois, Brest est 15e, Bordeaux 17e, Strasbourg 18e. Ça va jouer sans doute. Les Nantais sont quand même dans cet état d'esprit d'être un peu plus fort. C'est vrai, Jean-Michel, ça va mieux parce que peut-être ils n'étaient pas très très bons. Mais ça reste un sentiment partagé chez Antoine Gomboiré, justement, parce qu'il dit, c'est sûr, c'est stressant parce qu'on ne dort pas beaucoup, c'est excitant parce qu'on est revenu dans la course. On commence à récolter les fruits, les voyants sont au vert, mais il y a zéro certitude parce que il va falloir les jouer ces matchs et notamment ce match à Dijon. C'est vrai que c'est le 20e. Lui, il a vraiment pas envie de faire des calculs. Dimanche, il se dit, en revanche, on va l'entendre, que c'est peut-être le match le plus important de l'année avant Montpellier dans 10 jours.
On a deux matchs, deux grandes finales, dont la première qui est donc dimanche prochain face à Dijon, qui est, pour moi en tout cas, peut-être le match de l'année. Parce que tout le monde nous voit gagnant, tout le monde voilà, fait comme vous là, des calculs, avec des calendriers, et c'est la grave erreur qu'on ferait nous. Si on s'endort un peu, les deux gifles, on va les prendre dans la figure. Hein.
Voilà, il est méfiant Antoine Gomboiré, il a toujours été depuis qu'il est arrivé. Mais il y a cette petite odeur là qui est quand même est agréable. D'ailleurs, on le sent paisible, mais il veut bien que les joueurs se rendent compte que l'objectif il est dans 10 jours et pas déjà atteint.
Nantes va se sauver.
Je serai à la place de Antoine Gomboiré, je tiendrai le même discours. Dire c'est vrai qu'il y a l'effervescence due aux trois victoires de suite, en plus avec la manière, et Pierre-Yves te le disait, dire c'est une équipe qui joue bien, il y a des joueurs qui retrouvent un très bon niveau et ça tout le mérite aussi à Antoine Gomboiré qui a su les remettre
mais quand t'as le milieu de terrain Blas, Louza,
tu me parles d'eux aujourd'hui alors que tu les enterrés il y a deux mois.
Qui?
Évidemment.
Oui, ben non, mais
les mêmes. Ils ne faisaient pas de passe de suite.
Mais c'est vrai, mais on les enterrait.
Ils y allaient tout droit, c'est ça.
Maintenant.
Une passe de suite, c'est compliqué, mais deux, ça allait encore davantage.
On a toujours dit que, dans tous les cas, c'était pas la meilleure équipe de France, mais qui méritait pas ce classement-là, et qu'il y a des joueurs qui avaient montré des qualités bien avant, sur les saisons d'avant, et que là, on comprenait pas. Et c'était aussi un problème d'état d'esprit, un problème de confiance. Et là, tout le mérite à Antoine Gomboiré. Et puis tout ce qu'il a mis en place au niveau du jeu, parce que moi je l'ai souvent et à juste titre catalogué d'un entraîneur
défensif qu'avec le
non
mot,
c'est surtout le mot guerrier,
commando
et tout ça, c'est vrai qu'il
s'en cache pas,
sauf que cet état d'esprit commando il avait un petit peu disparu dans les derniers clubs qu'il avait entraîné, que ça soit à Dijon, à Toulouse par exemple, et c'est vrai que on pouvait être sceptique sur ce qu'il apportait. Et ben on est forcé de constater que le fait d'avoir pris un petit peu de le break par la force des choses, d'être revenu aux affaires dans un club qui lui correspond très certainement, et ben là il fait des choses magnifiques. Et à mon avis, avec ça, tu verras que ils vont se maintenir.
Il y en a
pas
un
par le barrage ni rien, ils vont se maintenir.
Il y en a un qui
parce qu'avec juste une victoire à 40 points, tu regardes le classement à 40 points, je pense qu'ils vont se maintenir.
Il y en a un qui se cache là depuis tout à l'heure.
Bah, Nicolas Paul Orsi,
il tremble.
Il sait qu'il va jouer contre Toulouse le match de barrage.
Non, mais j'entends des mots.
Jour, lui.
Ah, il peut se cacher à la radio, mais en vrai, il peut pas se cacher avec le physique qu'il a.
Non, mais j'entends des mots, j'entends état d'esprit, j'entends guerrier, c'est des trucs que je connais pas, moi.
Confiance, dynamique, décisive.
En plus, toi, tu l'as eu la victoire. Gasset nous disait, il nous faut une victoire depuis 10 journées. Tu l'as eu pourtant ta victoire.
On l'a eu.
Contre
elle,
c'est Nico, il mange les pizzas avec les joueurs. Alors évidemment, pour se cacher, après, c'est plus compliqué, quoi.
Non, mais franchement, quand je vous entends, je sens qu'il y a beaucoup de
d'optimisme chez les clubs qui jouent le maintien. Et à Bordeaux, franchement, c'est compliqué. On a l'impression que la dynamique fait que Bordeaux est condamné à descendre. Il y a eu ce 3-0 à Nantes. Ok, il y a eu cette petite victoire, t'en parlais, Jérôme, contre Rennes, il y a 15 jours, 1-0, mais avec des faits de jeu, un carton rouge contre Nzonzi au bout de 9 minutes. Alors, ils ont été plutôt costauds après les Bordelais sur ce match-là. Mais voilà. Et puis, on était encore à la conférence de presse ce matin. On entend Jean-Louis Gasset qui nous dit qu'il a jamais envisagé de lâcher. Mais voilà, on n'a pas cette sensation de grinta, de joueurs qui veulent aller au combat. Quand on entend Antoine Comboiré qui parle de finale, là, du côté de Bordeaux, le discours, c'est on essaie de chercher du positif là où il y en a. Ouais. Donc, on leur a demandé, mais il est où le positif sur les 3 derniers mois? Ils nous ont dit, c'est le match de Rennes. Bon, ok.
Non, mais tu nous avais parlé de la Réunion.
Ah oui, bon, là, ouais. Non, mais je vais arrêter de parler des réunions parce que ça va.
Il n'y a pas eu un barbecue là,
non? Ça va pas me porter les choses.
Ils sont pas tous réunis là, ouais. Parce que,
non, je crois qu'ils ne sont pas réunis. Ils sont pas réunis cette semaine.
Je pense qu'ils peuvent plus s'encadrer.
Laissez-nous finir, le pauvre.
L'Assemblée Générale, elle a vu que les fruits.
Vas-y, Nico.
Non, mais puis en plus de ça, alors en plus de cette dynamique-là, pour le coup, Jean-Louis Gasset a des blessés. Il devra faire sans Otavio. Kalou et Koscielny sont encore juste, donc ils ne joueront pas ce week-end. Mécher s'est blessé contre Nantes. Ben Arfa est toujours pas là, donc ça, c'est pas vraiment une grosse perte sur les dernières semaines, quand même, il faut le dire. Mais voilà, donc on a vraiment la sensation que Bordeaux est un peu condamné à descendre si au moins ils ne mettent pas l'état d'esprit et l'agressivité qu'il faut pour jouer ce genre de match.
Bon, on verra ça avec ce Bordeaux-Lens, donc à suivre.
On souhaite aux dimanche 21h. Longue épée vienne faire un discours avant le match.
Ouais. Non, mais par contre, ça, Jérôme, t'as raison. La direction, alors il y a Longue Épée, mais il y a aussi quand même un directeur sportif qui s'appelle Alain Laroche, qui est un ancien joueur. On ne les entend absolument pas parler. Donc Gasset est seul dans une galère totale depuis 4-5 mois, et c'est assez dingue quand même.
Alors faites vos jeux, n'hésitez pas. Le hashtag RMC Live, vous venez sur RMC dire qui, à votre avis, va descendre, qui va se maintenir. Autre match qui concerne le maintien, Lorient-Metz et Nice-Strasbourg aussi. Hein. Strasbourg et Lorient qui sont concernés, on n'en a pas parlé parce que Gilbert Bribois nous l'interdit.
Ouais.
Strasbourg. Voilà. Ouais. Merci beaucoup à tous les quatre.
Allez, merci à vous.
Merci les gars. Merci, bon week-end courage, à vous. Hein. On vous écoute dimanche 21h dans un
pour certains.
Multiplex exceptionnel sur RMC, bien sûr. À très bientôt. Allez, et on espère vous retrouver la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau multiplex.
Et pour certains, l'année prochaine, le vendredi soir.
Salut les gars. Allez, ça tout va. De suite, le quiz de Roten Régal. Restez bien avec nous. Oui, alors je vous posais la question à vous qui nous écoutez, qui va se maintenir et qui va descendre. Un petit pronostic là. Allez, on se lâche, Jérôme.
Bordeaux barrage.
Bordeaux barrage pour toi et Nîmes qui descend.
Bah, Nîmes, malheureusement, je pense que les crocos nîmois, ils vont y aller.
Captain ?
Oui, je pense Bordeaux barrage. Et c'est pas gagné en barrage.
Et vous imaginez un Bordeaux-Toulouse ?
Parce qu'un barrage, c'est Bordeaux-Toulouse peut-être.
Hein. Ouais. Peut-être, c'est une possibilité, oui. Vu que Clermont va monter.
Ouais.
Toulouse a de grandes chances de faire le barrage, ouais, final. Un Bordeaux-Toulouse, ouais. Oh, voilà, sur bon courage pour les Bordelais, parce qu'ils ont perdu en Coupe de France déjà contre Bordeaux. Contre Toulouse.
Ouais.
Les Bordelais à domicile. Ah bon, il y a eu Bordeaux-Toulouse et Toulouse avait gagné haut la main à Bordeaux.
Ah ouais, d'accord. Donc tout est noir, quoi, comme nous le disait Nicolas Paul Orsi du côté de Bordeaux. Oui, on suivra ça aussi, bien sûr.
Le mari de France.
Voilà, on suivra ça bien sûr. N'oubliez pas, 21h dimanche, multiplex Ligue 1 et puis multiplex Ligue 2 demain sur RMC. À ne pas rater aussi.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. François Pinet.
Jérôme Roten.
19h50 sur RMC. Dans Roten Régal, il reste 10 minutes. François, oui, c'est l'heure du quiz.
Le quiz, on y va. Jingle. Allez, on veut le jingle. C'est comme ça qu'on dit. Ah non, on n'en a pas, c'est pas grave, on y va. Arthur et Marouane nous sont avec nous.
Salut Marouane, salut Arthur.
Salut François, salut tout le monde.
Ah mais c'est Arthur qui est trop fort là au quiz.
Oui, c'est moi.
Alors je vais pas te faire choisir. C'est Marouane qui va choisir. Marouane, tu choisis. Tu veux jouer avec Captain ou avec Jérôme?
Avec Jérôme. Allez, très bien, Marouane. On est ensemble.
Et toi, Arthur, tu seras avec Captain.
C'est ce que je voulais.
Ah, c'est ce que tu voulais.
Ah, c'est ce qu'il voulait en plus.
Ok.
Attends, tu vas voir.
Eh ben, c'est parti pour le
plus fort.
On va commencer, messieurs, par une question musicale. Écoutez bien et vous me dites qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est à votre avis?
La musique de la Champions League.
L'hymne de l'Euro.
L'hymne de l'Euro, Captain, c'est bon. Je t'ai entendu, effectivement, l'hymne de l'Euro. Ça, c'est composé par Martin Garrix. Et qui chante? Non, ça vous dit rien, ça?
YouTube.
Ouais, Bono de YouTube, bien sûr. La voix,
c'est Bono.
Il a
éclairci la voix. Il a dû bien.
Bono qui chante de ligne de l'euro. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Captain, il est à la page. Voilà, c'est sorti aujourd'hui.
Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, mais je suis allé voir.
C'est pas mal. C'est pas mal.
Au Stade de France, mais tu plaisantes ou quoi?
Ben, j'ai jamais dit le contraire.
Qu'est-ce que ça veut dire ça?
J'ai rien dit.
Mais quel âge est Bono? Il a 55.
Oui, oui. Non, mais je veux dire, la musique, elle est toute neuve. C'est pour ça que je dis que t'es à la page.
Elle est belle. Non, elle est belle. Non,
mais je dis au hasard. Ok, super.
Ouais, j'aime bien. Ouais.
L'hymne de l'euro.
Ah bah là, bon, vas-y, on pose des questions
là. PSG Monaco, ça sera l'affiche de la finale de Coupe de France mercredi prochain, on est d'accord. La dernière finale PSG Monaco en Coupe de France, c'était en 2010, oui. Ça, c'est bon.
Oaro.
Bonne réponse, c'est Arthur, je crois. C'est Arthur. Oui. Arthur, bravo. Guillaume Oaro, buteur, effectivement, lors de la victoire du PSG face à Monaco. Le PSG a remporté 13 Coupes de France. Monaco, c'est 5 victoires en Coupe de France. De quand date la dernière victoire de Monaco? 91, bonne réponse, Jérôme. Effectivement. Bon, après, c'est ton club. Hein.
Contre Marseille.
Ça va, et François, si tu pouvais lui poser une question, des questions sur Meudon.
Ça y est, ça commence.
Ou Châtenay-Malabry.
Châtenay-Malabry, je suis né, je connais pas ces.
Pour l'instant, Arthur, Captain 2 points, Marouane, Jérôme 1 point.
C'est incroyable ça.
Marouane, tu peux aider Jérôme.
Allez Marouane, allez.
Il a pas
ouais,
l'air
de vite,
victoire 1-0 de Monaco, effectivement, contre Marseille à l'époque. Qui était le coach de Monaco?
Un Wenger.
Wenger, bonne réponse, Jérôme. Ça fait deux partout. La charade.
Ma gueule.
La charade, Captain.
Ah, la charade.
Je sais que tu aimes bien la charade. Ouais, mon premier est à ne pas confondre avec un bus. Mon deuxième, peut-être à moelle. Mon troisième est né à Meaux. Mon quatrième désigne les griffes d'un aigle. Montou jouait défenseur de l'OM. Il avait joué cette finale contre Monaco.
Carlos Moser.
Carlos Moser, bonne réponse, ouais. Jérôme. C'est la première charade qu'il remporte. C'est magnifique. Carlos Le Bris. Et
ouais,
les cerfs.
Bah, magnifique ta charade. Bon, voilà. Elle est magnifique.
C'est affreux. Carlos. Non, bah, Brie, en fait, je me suis trompé. Mais c'est pas grave, il a compris.
Ouais.
Mais Carlos, un mot.
Vas-y.
Je voulais dire, mon troisième, c'est.
Mais on s'en fout, vas-y.
L'essence du Brie.
Il y a 3-2, 3-2 pour moi.
Carlos Moser.
Pour nous.
Excusez-moi, ouais. Messieurs.
Moi, j'ai compris.
Il est extraordinaire.
Allez, on enchaîne. Ça fait 3.
Il a dit le contraire.
Oui, je me suis trompé. C'est pas grave.
C'est pas grave.
C'est la fin de semaine.
T'as raison. Moi, j'ai
Thauvin. On va parler de Thauvin. Il a rejoint Gignac chez les Tigresses de Monterrey. Citez-moi le nom exact d'un autre club du championnat mexicain.
Universidad de México.
Guadalajara. Non, c'est pas bon. Exact. Parce qu'il y en a deux. Hein. Alors.
FC Monterrey.
Universidad. Tu m'as dit quoi?
Catolica.
Catolica, non.
Deportivo Toluca.
Deportivo Toluca, ah, c'est une bonne réponse. Et c'est Marouane, effectivement.
Bien joué, Marouane.
Deportivo Toluca. Ah, c'est le club Universidad Nacional. C'est l'équivalent des Pumas que tu voulais me dire, peut-être.
C'est dommage. Pourtant, il a joué. Hein. Il a fait un tournoi de six, Jean-Michel.
Ça fait 4-2 pour Marouane. Jérôme contre Arthur Captain. Thauvin va au Tigresse, comme Gignac et Delors, oui. Mais il y a un autre Français qui a joué. Qui ça?
Au Tigresse,
ouais. Colotizac,
bonne réponse d'Arthur. Bravo, Arthur.
Ah bon, Colodjidjak,
tout à fait, avant de rejoindre Saint-Etienne. Colodjidjak a joué au Tigresse, oui. Ouais. Ça fait 4-3 pour l'équipe de Jérôme. Vous avez suivi la Q-Foot cette semaine, j'imagine. Quel club a été sacré champion au Portugal?
Sporting.
C'est Arthur qui a été le plus rapide. 4 partout. Ah, il est bon, Arthur. 4 partout. Deux points sont en jeu. Une journée de Serie A cette semaine. Citez-moi les deux Français buteurs lors de cette journée.
Berrettou.
Théo Hernandez.
Hernandez, c'est bon. Et Rabiot, c'est bon. Ça fait 2 points pour l'équipe de Captain.
Pas vrai.
Oh là là là. 6-4. Marouane, faut que t'aides Jérôme. Hein. Ouais. En Espagne, Benzema a encore marqué hier avec le Real Madrid. Un autre Français a marqué en Liga hier. Qui est-ce?
Griezmann.
Non. C'est pas un Français qui a l'habitude de marquer.
Hernandez.
Fekir.
C'était avec Villarreal.
Capoue.
Coquelin.
Capoue, je crois que c'est Marouane qui l'a dit.
Ouais, Marouane.
C'est Arthur.
Ouais. Non, il y a Marouane.
Arthur, 7-4.
Je sais pas si Marouane vient me le dire. Ah non, c'est qui alors, Marouane? Tu l'as dit, Capoue?
C'est Arthur.
Bah,
ouais.
Moi, j'ai dit avant lui.
Ah oui, Marouane
me dit qu'il le dit avant. Moi, je vais faire confiance à Marouane. Voilà, alors ça fait 6-5.
Non seulement ils sont joueurs, mais en plus, ils sont arbitres.
Non, mais c'est.
Non, on me dit dans l'oreillette aussi.
Oui, Flavien, il vient contrôler.
Dans le casque.
Flavien a contrôlé, il vient nous le dire.
Mais quel menteur.
Pas du tout, Captain.
Allez, 6-5.
Qui a dit? Ce sont des enfants capricieux dans une maternelle, des joueurs totalement immatures.
Larquet. Jean-Michel Larquet.
C'est Jean-Michel Larquet.
Mais t'as pas honte de faire ça.
T'as pas honte. C'est Jean-Michel Larquet, mais Arthur l'a trouvé.
C'est quoi cette question ?
Arthur l'a trouvé. Ça fait 7 points pour l'équipe d'Arthur et Captain. Allez, 2 points de retard, ça va être compliqué.
Mais vas-y,
qui a dit, à deux. J'ai beaucoup profité de ma famille, de mes parents, j'ai géré mes affaires et maintenant je suis prêt pour revenir au foot. J'ai attendu. Jardim, pas de réponse de Captain. Victoire. Victoire de Captain.
Oui, là,
Il n'y a rien à dire. Il était bien avec Arthur. Bravo, Captain. Tu vois, Arthur, sans tricher. Arthur, tu gagnes.
On n'a pas été bon. On a été très bon. Il y a eu quand même 12 questions sur le Paris Saint-Germain.
Mais ça fait
8 à 5 pour Captain. C'est une victoire.
Sur les 8 points, t'as donné une réponse, Jean-Michel.
C'est vrai qu'Arthur, tu l'as bien aidé. Bravo, Arthur. Bravo, Marouane.
C'est comme quand Fabien Tchèque gagnait. Je peux te dire que c'était pas grâce à Jean-Michel.
Qui c'est les plus forts, évidemment.
C'est Jacques Santini.
Tu finis en beauté, Captain. Une semaine excellente de Captain. Il est resté toute la semaine. Bravo, Captain.
À très bientôt, Captain. À dans 3 semaines, Jean-Michel.
Christophe Cessieux est là.
Bonne soirée.
Salut Christophe.
Avec du rugby au programme ce soir, les gars. Comment ça va? Vous êtes
ça
en
va
pleine
bien.
Forme
écoute,
on est en pleine forme.
Bon, eh ben, nous aussi, on va se régaler ce soir. Il y a du rugby. On va parler de vélo, de tennis, de moto. On fait de tout sauf de foot.
Oui, mais le foot, c'est ce week-end.
Le rugby, c'est quoi?
Dimanche soir. Rugby, c'est Pau face au Racing. Ça va être
pas facile pour le Racing. C'est un déplacement compliqué.
Tu veux les trois quarts du Racing?
Ouais,
c'est l'équipe de France.
On dure et dure programme.
Tu dis qu'il n'y a pas photo.
Ouais, on va peut-être pas faire le débat maintenant, les amis.
Bah, je sais pas, parce que j'entends. On n'a pas le temps.
Désolé, Jérôme.
Bah, Denis Charvet m'a dit une saucisse.
Ce serait pas la première. Hein.
Il a dit joue le match nul. Je lui ai dit, ouais, c'est ça. Ouais.
Week-end exceptionnel sur RMC, Multiplex Ligue 1 dimanche soir, Multiplex Ligue 2, la dernière journée en intégralité. C'est dès 19h demain avec Benoît Boutron.
C'est chaud.
Dès demain. Bon week-end, Jérôme.
Allez, bon week-end à tous.
Et à bientôt.